Vous êtes sur RTL.
Matin, et Marina nous rejoint bien vite.
Avec plaisir.
Un an après l'assassinat du professeur Samuel Paty, l'enquête reste complexe. L'enquête, mais aussi les suites de l'affaire et les réactions. Visiblement, certains se sentent gênés. Comment accompagner ou commémorer l'assassinat du professeur? Nous ferons le point à 8h20 avec l'avocate de la famille de Samuel Paty, maître Virginie Leroy. Pendant ce temps, en Afghanistan, les talibans imposent leur loi. Ils sont au pouvoir depuis 2 mois. Et croyez-moi, la vie a changé, en particulier pour les femmes. Ce sera notre brigade RTL de 7h15 avec Émilie Beaujard. J'ai le sens sentiment de ne plus être en vie, lui a confié une femme afghane. La politique, Alba Ventura reçoit ce matin le député de la France Insoumise, François Ruffin. Quand il n'est pas à l'Assemblée, il continue son activité de documentariste et son tout dernier film, Debout les femmes, vient de sortir. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonne journée à tous. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce document RTL, Guillaume Chiez a rencontré la nouvelle compagne de Cédric Jubilard.
Il est convoqué ce matin par les juges d'instruction. Séverine croit en l'innocence de celui qui est aujourd'hui incarcéré, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine. Comment rendre hommage à Samuel Paty, vous l'évoquiez, dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine où il a été assassiné il y a un an. RTL a rencontré des habitants inquiets et toujours traumatisés. Dans ce journal également, ils ont la mission de nous rendre Notre-Dame 2 ans et demi après l'incendie. RTL a rencontré ces cordistes qui travaillent depuis des mois à 30 mètres au-dessus de nos têtes. Et puis c'est l'événement musical du jour, la nouvelle chanson de Stromae, Santé, qui vient de sortir ce matin.
Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever.
Et voilà le refrain de cette chanson Santé. On entendra 2 plus longs extraits dans quelques minutes.
La politique, Olivier Bost.
Un mandat présidentiel unique. En voilà une bien mauvaise idée de candidat à la présidentielle.
Vous nous expliquez tout ça dès la fin du journal.
RTL Matin.
C'est à 9h30 ce matin que Cédric Jubilard a rendez-vous avec les juges d'instruction pour une première audition sur le fond de l'affaire. La disparition de sa femme Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn. Malgré ses dénégations, il est mis en examen aujourd'hui pour meurtre. Il est en prison depuis juin dernier. Guillaume Chiez, en exclusivité pour RTL, a pu rencontrer la nouvelle compagne de Cédric Jubilard qui croit en son innocence.
C'est lors d'une battue organisée en avril dernier pour retrouver le corps de Delphine Jubilard que Séverine a rencontré Cédric Jubilard. Le couple va se fréquenter quotidiennement pendant 2 mois jusqu'au 18 juin, jour où Cédric est mis en examen et incarcéré à la prison de Seyss. Depuis cette date, impossible de le revoir, Cédric Jubilard est placé à l'isolement, le parloir lui est interdit.
J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Cédric, pour moi, il est innocent. Il est temps maintenant de les laisser sortir, mais bien sûr, ils ont décidé de faire cette audition apparemment 2 fois, la première aujourd'hui et la deuxième en décembre. Donc tout pour le faire craquer, l'épuiser, quoi, c'est bien dommage.
Séverine, elle, ne s'épuise pas. C'est à elle que Cédric Jubilard a confié les clés de sa maison de Cagnac-les-Mines. Ils s'écrivent au moins 2 fois par semaine. Séverine continue à relever son courrier et faire un peu de nettoyage pour dépoussiérer les lieux.
Aujourd'hui, je me sens fatiguée, mais je me dois de tenir le coup pour Cédric. Je ne lâcherai pas. J'attends comme tout le monde. Il me tarde qu'une chose, c'est qu'il sorte et qu'il récupère ses 2 bouts de chou et qu'on le laisse enfin tranquille.
Séverine mise beaucoup sur les futures demandes de remise en liberté de Cédric Jubilard. Même si dans leur dernier arrêt, en date du mois de juillet, les magistrats ont estimé qu'il existait un faisceau d'indices graves contre lui et qu'il fallait le maintenir en détention provisoire.
Oui, ces indices, merci Guillaume Chiez, le fait par exemple qu'il ait minimisé les difficultés que rencontrait le couple, ses cris qu'ont entendu également certains voisins ou encore cette lessive qu'il a lancée la nuit de la disparition pour laver la couette de sa femme. Après le meurtre barbare de cette femme de 77 ans à Agde dans l'Hérault, retrouvée décapitée, un homme de 51 ans a été placé en garde à vue hier soir pour assassinat. Le motif serait crapuleux. Il a en tout cas utilisé la carte bleue de la victime et les enquêteurs ont pu aller vite parce qu'il y avait des bandes de vidéosurveillance aux abords et à l'intérieur de la maison.
Il est 7h03. L'école de la République rendra hommage à Samuel Paty ce soir après les cours.
Oui, avec ce sentiment double et un peu étrange à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne où ce professeur d'histoire a été assassiné par un terroriste pour avoir montré des caricatures de Mahomet. La ville tient à rendre hommage à Samuel Paty, mais il y a aussi l'appréhension à nouveau de faire la une des médias un an après l'événement qui a bouleversé toute la population, Valentin Boisset.
Oui, les policiers sont de retour devant le collège, ils surveillent chaque passage d'individus à la demande des habitants, ils sont inquiets. Les souvenirs remontent à la surface, Nicolas habite en face du collège.
Il y avait les journalistes, la police partout, puis tout est revenu à la normale.
Puis le calme, soudain, pendant des mois, sa fille refuse alors de se rendre seule à l'établissement.
Il y a beaucoup d'enfants qui avaient peur de rentrer tout seul chez eux, alors qu'ils le faisaient très bien auparavant. Et c'était quand même assez triste, ça a duré un bout de temps.
Dans la rue, il salue sa voisine Malika. Le quartier s'est soudé. Elle connaissait Samuel Paty, décapité à quelques mètres de son portail où deux coquelicots rouges sont accrochés.
Les gens venaient se recueillir ou déposer des fleurs. Je constate qu'il y en a de moins en moins.
Le 16 octobre, elle entend tout, les cris de l'attaque, puis les coups de feu pendant des mois. Elle veut protéger sa fille et décide alors de ne plus regarder la télévision.
Un effroi total. On a essayé de ne pas lui montrer ce qui se passait. Ça passait en boucle à la télé. On a essayé de l'occuper autrement, qu'on ait eu le temps de lui expliquer un petit peu avec nos mots sans la traumatiser.
Un temps, le débat est lancé, renommer cette rue Samuel Paty, mais il finira par passer, car selon un conseiller municipal, le temps est toujours ici à la reconstruction.
Reportage RTL de Valentin Boisset. Les enseignants français ce soir pourront donc organiser un temps d'échange avec les élèves sous la forme qu'ils veulent pour rendre hommage et pour parler aussi du principe de liberté d'expression.
Enfin, je vous rappelle qu'à 8h20, je recevrai l'avocate de la famille Paty, maître Virginie Leroy, qui a choisi RTL ce matin pour prendre la parole. Dans un instant, rencontre avec ceux qui ont la formidable mission de nous remettre sur pied Notre-Dame, ces cordistes qui travaillent depuis 2 ans et demi à 30 mètres au-dessus de vos têtes. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL, il est 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois. L'événement ce matin, RTL a eu accès au chantier de Notre-Dame.
Oui, 2 ans et demi après le terrible incendie qui a failli détruire la cathédrale, l'objectif reste de la rouvrir en 2024. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Et pour cela, on compte sur des ouvriers acrobates, ces cordistes qui vivent depuis des mois à 30 mètres au-dessus de nos têtes. Vous les avez rencontrés au cœur du chantier de reconstruction.
T'arriveras à enlever les 200 qui sont de mon côté, Stan ? Vas-y alors.
Ouais. Tout là-haut, Mathieu est accroché sur les arcs-boutants en pierre de Notre-Dame.
J'ai mon baudrier, j'ai tout ce qui sert à descendre sur corde, à remonter sur corde, et puis aussi pour le secours, le long de la cathédrale.
Un panorama à 360 degrés, époustouflant la tour Eiffel, la tour Montparnasse, le Panthéon.
Donc on est à la première terrasse de la cathédrale, donc à peu près au premier étage, au niveau du cœur sud.
Donc vous avez vu la cathédrale d'en haut, d'en bas, par en dessus, par en dessous, les pierres abîmées, les pierres, les vestiges à déblayer, vous avez tout vu?
Complètement. Peut-être pas du dessous par contre, justement. C'est peut-être mon métier qui fait ça, mais j'ai peut-être pas été au sous-sol encore.
Son travail ce matin, mettre des cales entre les gigantesques cintres en bois qui soutiennent les voûtes extérieures fragilisées par l'incendie.
On a un marteau et puis une cale au cas où c'est vraiment coincé, mais non, il faut juste qu'il y ait un peu de jeu pour pas que ça soit en contrainte entre le bois et la pierre, une par une.
Donc là, vous remettez tout, hein, n'oubliez pas un petit mousqueton.
Toujours en sécurité.
2 ans et demi que Mathieu travaille tous les jours sur le chantier du siècle et il ne s'en lasse jamais.
Et l'objectif reste 2024, Sophie. C'est atteignable toujours selon les organisateurs de ce chantier de rénovation.
Tout ne sera pas terminé, mais la cathédrale sera rendue occultée aux visites.
Merci beaucoup, Sophie Orange. En bref, la campagne chez les Républicains est maintenant vraiment lancée. Xavier Bertrand a entamé hier soir à Oyonnax, dans l'Ain, sa tournée des fédérations pour se faire pardonner en quelque sorte d'avoir quitté le parti. Tandis que Valérie Pécresse, elle a décidé de reprendre sa carte chez les Républicains. On rappelle que le congrès a lieu le 4 décembre. Et puis à gauche, Anne Hidalgo est désormais officiellement la candidate du parti socialiste. Elle a été investie hier soir par le vote des militants. Des femmes afghanes témoignent ce matin sur RTL. 2 mois après l'arrivée des talibans au pouvoir, elles ont disparu du jour au lendemain de l'espace public. L'école autorisée uniquement en primaire. Seuls les fonctionnaires ont le droit de travailler. Toutes les autres restent à la maison. On en parle avec ce dossier complet, la brigade RTL d'Émilie Beaujard à 7h15. Et puis la France appelle à l'apaisement au Liban au lendemain de manifestations qui ont dégénéré et qui ont fait 6 morts. Les partisans du Hezbollah sont descendus dans la rue pour dénoncer l'enquête un an après l'explosion sur le port de Beyrouth. Ils accusent la formation chrétienne des forces libanaises de leur avoir tiré dessus, ce que les chrétiens contestent.
7h09, le foot, le PSG affronte ce soir Angers en Ligue 1, toujours sans Sergio Ramos.
Oui, celui qui était présenté cet été comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, celui qui devait être le patron du vestiaire parisien, n'a toujours pas foulé la pelouse d'un match de Ligue 1, Philippe Sanfourche.
Oui, avec cette question sous-jacente, et si le PSG avait fait signer le meilleur défenseur du monde au moment de prendre sa retraite à 35 ans, le cas Sergio Ramos inquiète. Victime de douleurs musculaires à répétition, il n'a toujours pas disputé le moindre match avec Paris officiellement. Son ancienne blessure au mollet est guérie, mais le staff médical ne veut prendre aucun risque. L'entraîneur Mauricio Pochettino, lui, ronge son frein et tente de rester positif.
Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il retrouvera toutes ses capacités et son meilleur niveau. Il souffre de cette attente et c'est normal, mais c'est quelqu'un de très fort et il sait qu'il a le soutien de tout le club.
6 mois que l'ancien champion du monde espagnol n'a plus été vu sur un terrain de football. À l'époque, le Real Madrid lui avait proposé du bout des lèvres une prolongation de contrat, une saison avant de finalement se rétracter.
Merci Philippe Sanfourche. PSG Angers, c'est ce soir à 21h. Mm-hmm. Et puis l'événement musical du jour, écoutez.
Rosa, Rosa,
connaissez évidemment la voix de Stromae, dont c'est le grand retour après 8 ans d'absence. Il a sorti tout à l'heure, à 6h du matin, cette nouvelle chanson Santé, premier extrait de son futur album. Lui qui avait tout arrêté après le succès absolument stratosphérique de son album Racine Carrée.
Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Le refrain de la chanson Santé, donc en hommage à tous ceux qui travaillent pendant qu'on fait la fête, c'est comme ça qu'il présente cette nouvelle chanson Stromae. Et puis hasard du calendrier d'ailleurs, Yves, toujours au chapitre musical, autre énorme sortie aujourd'hui, la nouvelle chanson d'Adèle qui s'appelle Easy On Me, déjà 10 millions de vues en quelques heures seulement, ce sera la pépite musicale d'Anthony Martin tout à l'heure à 7h25. Et puis un mot enfin, c'est un homme qui a beaucoup compté pour nous ici à RTL, Philippe Chaffanjon, qui a été journaliste ici, qui a été directeur adjoint de la rédaction. Il nous a quitté en 2013. Le prix du reportage numérique qui a été créé en sa mémoire ouvre les candidatures aujourd'hui. RTL est partenaire et vous pouvez participer si vous avez produit pour un site de presse un reportage. On a donc une pensée ce matin pour la famille de Philippe Chaffanjon qui a été encore une fois une grande figure aimée de notre chaîne et de notre rédaction.
On termine avec les courses, elles ont lieu à Vincennes.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 9, le 15, le 7, le 5, le 3 et le 16. La dernière minute, c'est le 9.
Le journal nous est déposé par Olivier Bois. Il est 7h12, la politique, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Trois candidats à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, Yannick Jadot et Michel Barnier, promettent un mandat présidentiel unique. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien voilà, la parfaite vraie fausse bonne idée. Pourquoi faire un seul mandat ? Serait-il un argument de campagne ? C'est comme si les candidats se résolvaient par avance à leur future impopularité. Comme s'ils étaient des François Hollande en puissance, incapables de se représenter une seconde fois devant les électeurs. Ils ne veulent pas avoir à défendre un bilan. C'est étrange, non ?
Eh ben, effectivement, mais ça n'est quand même pas ça leur explication pour promettre de ne faire qu'un mandat. Hein.
Bah, ça revient à dire « Votez pour moi, je ne serai pas là pour longtemps, oui. Je ne vais pas vous embêter longtemps. » Il est aussi curieux de vanter une action limitée dans le temps. Vu l'ampleur de la tâche pour rendre la France heureuse, 5, 6 ou 7 ans peut paraître un peu court. Et puis, assurer que l'on ne fera qu'un mandat, ça revient aussi à dire que les politiques ne doivent pas rester, que durer c'est malsain, que forcément avec le temps, le pouvoir use, abîme, corrompt, salit. Il y a derrière cette fausse bonne idée de mandat unique, une once de populisme.
Bah alors donc ça n'est pas une bonne idée. Comment expliquez-vous que Michel Barnier, Yannick Jadot ou Xavier Bertrand la proposent ?
Bah alors c'est pour des motivations un peu différentes, mais qui racontent pour chacun quelque chose de leur candidature. Mmh. Michel Barnier, c'est l'âge, hein. Il aura 76 ans à la fin du prochain quinquennat. Xavier Bertrand, lui, n'est pas certain d'être à la hauteur, si l'on en croit les confidences rapportées par le polémiste et désormais concurrent Éric Zemmour. Enfin, Yannick Jadot a comme tous les écolos, un problème avec la 5e République. Il dit qu'il veut déprésidentialiser.
Mais bah, au moins, ça fait des idées un peu différentes, non ?
Alors, bah, il faut se méfier de ces évidences qui nous confortent dans l'idée que les politiques s'accrochent au pouvoir, restent trop longtemps, qu'ils cumulent les indemnités et qu'ils sont obsédés par leur réélection. Ce n'est pas en se dévalorisant eux-mêmes qu'ils vont rehausser le niveau de la classe politique. Or, il y a bien aujourd'hui une question de qualité de la classe politique. Personne n'avait réalisé qu'avec le quinquennat, nous allions précipiter la 5e République dans son hyper-présidentialisation. Avec la fin du cumul des mandats, nous avons taré une source d'élus talentueux qui y trouvaient un destin national. Alors pour résumer ce que je pense de cette idée de mandat unique, c'est la mesure gadget et un peu démagogique pour se distinguer. Alors que pour le mandat unique, eh bien, il suffit de laisser les Français le faire eux-mêmes. Et ils font ça très bien depuis un moment déjà, puisque plus aucun président n'est réélu.
À 7h40, c'est François Ruffin qui sera l'invité d'Alba Ventura. Le député insoumis vient de sortir un nouveau film intitulé « Debout les femmes », dans lequel il a sillonné la France à la rencontre de femmes actives. Alba le fera également réagir, bien entendu, à l'actualité.
Yves Calvi, RTL Matin.
Et notre brigade RTL revient ce matin sur la prise de pouvoir des talibans. C'était il y a 2 mois en Afghanistan. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
20 ans après avoir été chassés par les Américains, les talibans reprennent donc Kaboul, la capitale. En quelques semaines, tout a changé, notamment pour les femmes qui ont totalement ou quasiment totalement disparu de l'espace public.
Oui, désormais les filles ne peuvent aller à l'école que jusqu'en primaire et les femmes ont seulement le droit de travailler dans la fonction publique. Toutes les autres sont à la maison, comme Arifa, 35 ans. Elle habite à Kaboul et travaille pour une association.
They are promising that everybody should feel safe.
Les talibans nous disent qu'on n'a rien à craindre, mais dans la pratique,
dit qu'on ne se sent pas du tout en sécurité. Nous sommes des millions de femmes comme moi, restées chez nous comme des prisonnières. Les talibans nous ont pris nos droits. Nous ne pouvons plus travailler. J'ai le sentiment d'avoir tout perdu, de ne plus avoir ma vie, de ne plus être en vie.
Économiquement aussi, le pays s'enfonce dans la crise.
Oui, les caisses de l'État sont vides, les denrées alimentaires ont du mal à passer les frontières. Résultat, les prix s'envolent et l'ONU estime que 14 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Beaucoup d'Afghans rêvent donc de quitter le pays. C'est le cas de Morteza, lycéen de 19 ans à Kaboul.
Je ne veux pas vivre dans un pays dirigé par des idiots qui ne sont même pas allés à l'école. Ici, ce n'est plus vraiment fait pour quelqu'un comme moi qui veut étudier les sciences informatiques et puis devenir ingénieur. Donc je dois vraiment quitter mon pays si je veux poursuivre et réaliser mes rêves.
Morteza multiplie les demandes de visa. Il partira dans le premier pays qui accepte de lui en délivrer un.
Merci Émilie Beaujard pour ce point complet sur la situation en Afghanistan. Dans un instant, direction Marseille avec cette enquête de notre correspondant Hugo Hamelin. Quand les dealers s'inspirent des méthodes des livreurs de repas à domicile, vous allez l'entendre, c'est hallucinant.
RTL événement.
Il est 7h19, vous connaissez la livraison de vos repas directement du restaurant à votre domicile. Eh bien sachez qu'il existe la même chose pour la drogue. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Marseille. Face aux opérations de police répétées dans les cités marseillaises, les plus importants réseaux de dealers en fait utilisent désormais la livraison à domicile comme une sorte de plan B et envoient le menu de leurs produits directement sur les téléphones portables des consommateurs.
C'est ça, c'est le fichier client des dealers. Sur un message WhatsApp ou Snapchat, on vous propose 50 grammes d'amnésia, une herbe de qualité. Les commandes sont prises uniquement le matin, il faut donner son adresse exacte, bien sûr, un créneau horaire et le livreur appelle quand il est à proximité.
Dans 5 minutes, même pas 5 minutes, tu peux être à Longue. Allez, ça va, super, vas-y, ok, on fait comme ça.
Les commandes ne sont pas modifiables, elles sont scellées à l'avance par le dispatcher du réseau qui nous envoie donc un de ses livreurs pour les besoins de ce reportage.
Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc c'était 50, c'est ça ?
6 grammes de résine pour 50 euros. Notre dealer est discret, une cinquantaine d'années, au volant d'une fourgonnette d'artisan invisible dans la circulation.
C'est super chaud. Nous, personnellement, nous, ce qu'on fait ça, là, en ce moment, on prend voilà, les risques. Parce qu'ils ont arrêté des collègues à nous il y a quelques semaines. Et...
C'est aussi un ouvrier précaire de la grande firme du deal.
À la fin du mois, j'ai ma paye et ma paye, elle me pousse à faire ça, t'as vu ? C'est dommage, mais bon.
Tu travailles à côté ?
Je suis intérimaire, ouais. Ça fait 14 ans, je suis intérimaire, j'ai jamais mis 100 euros de côté. Demain, je meurs, mes deux filles, ils n'auront même pas un euro de côté. Et alors, je prends les risques et voilà, t'as vu.
L'échange a duré 2 minutes, montre en main. La police envoie de plus en plus dans les quartiers aisés de Marseille, proche de la mer. C'est là qu'habite Clément, consommateur venu s'installer dans le sud il y a 2 ans.
Moi, je suis de Paris à la base, mais ça fonctionne exactement pareil. Hein. Quand tu consommes avec d'autres personnes, bah, tu vas t'échanger les numéros en disant lui, il est nul, celui-ci, il est un peu mieux, nanana, il va mettre moins de temps celui-ci. Tu lui envoies un message et en général, dans la demi-heure, il en bat de chez toi.
Ils vendent quoi ?
De la coke, du shit, de la MD aussi de temps en temps, les extras. Ils te font des petites promotions si tu leur envoies des clients ou d'autres personnes, ils vont faire des tarifs dégressifs et tout ça.
Pilonné par les opérations de police et les enquêteurs de la criminelle, le nez dans les règlements de compte et puis dans un but de diversification, certaines grosses équipes de trafiquants créent en fait une branche livraison en parallèle de leur point de deal.
Alors question, est-ce que la livraison rapporte autant qu'une cage d'escalier, Hugo, et est-ce que les policiers planchent sur ce phénomène en pleine expansion ?
Alors clairement, les Uber Sheet et Uber Coke ne rapportent pas autant qu'un vrai lieu de vente, mais c'est une corde de plus à l'arc des dealers. Il faut comprendre que c'est exactement le même système que la grande distribution. Après avoir copié le packaging, les promotions, le drive aussi, où le client achète sans descendre de la voiture, eh bien les gros réseaux marseillais ajoutent l'option livraison aux capacités de leurs entreprises. Sur ce marché, ils ne sont pas tout seuls. Ces importants grossistes côtoient de petites équipes indépendantes, mais aussi des auto-entrepreneurs, comme cet ancien boss d'une cité d'Aubagne, incarcéré plusieurs années et qui a repris à sa sortie son business en solo, en achetant 1 kilo de cocaïne par mois aux Pays-Bas pour la revendre à une trentaine de clients. 5000 euros de salaire par mois pendant 5 ans. Il s'est fait interpeller la semaine dernière par la brigade des stupéfiants qui prévoit que le marché de la livraison va doubler, voire tripler dans les années qui viennent.
Merci beaucoup Hugo Hamelin pour ce reportage très détonnant à Marseille. Et je vous rappelle que le président Macron va se rendre dans la journée dans la ville.
RTL Matin, Yves Calvi.
Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On vous retrouve avec plaisir pour notre pépite musicale quotidienne. Quel est le programme aujourd'hui ?
Eh bien, c'est la fin d'un silence musical de près de 6 ans et c'est enfin l'heure des retrouvailles avec une des plus belles voix au monde. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. La chanteuse Adele est de retour. Cette nouvelle chanson est disponible depuis cette nuit sur les plateformes de streaming. Il s'agit d'un morceau intitulé Easy on Me. Adele a changé de vie ces dernières années. Elle a fui les micros et la célébrité qu'elle déteste. Elle est partie s'installer en Californie. Métamorphosée physiquement, elle a perdu plus de 40 kilos. Elle a divorcé. Et dans cette nouvelle chanson, la chanteuse anglaise s'adresse précisément à son ex-mari. Sois sympa avec moi. C'est le sens de ce Easy on Me. C'est notre pépite du jour, le retour d'Adele. Titre, Easy on Me, est donc le premier extrait du prochain album d'Adele. Il sortira le 19 novembre, l'album. Fidèle à son concept, la chanteuse l'a appelé 30. C'est l'âge auquel elle a commencé à écrire les chansons. Elle en a aujourd'hui 33. Adele a dit dans le magazine américain Vogue qu'il s'agira d'un disque thérapie, inspiré de ce qu'elle a traversé ces dernières années, c'est-à-dire pas seulement l'océan Atlantique, mais des moments durs. À 30 ans, ma vie s'est effondrée sans prévenir, a confié la chanteuse. 30 sera donc son quatrième disque. Et si on additionne ses ventes jusqu'ici, on dépasse les 100 millions d'exemplaires. C'est absolument vertigineux.
Merci Anthony, on parlera du retour d'Adèle tout à l'heure à 9h avec Stephen Bellery dans Laissez-vous tenter. Avant 7h30, notre point météo dans un instant avec Marina Giraud. On retrouve Laurent Ruquier, toute son équipe dès 15h30. Alors, cette question ce matin, qui parmi les grosses têtes a encore une voiture?
Moi, j'en ai une, Arsène, il y a très longtemps, je l'appelais Moumoun.
Ah, parce que vous donnez des noms à vos voitures.
Ah bah, certaines, celles que j'aime vraiment beaucoup.
Ah oui.
Et celle-là, je l'ai aimée.
Moumoun, vous êtes resté combien de temps avec Moumoun?
Ah bah, longtemps, hein. Oh, au moins 8 ans. Hein.
Ah ouais, ah ouais. Donc,
bah, elle
oui,
montait hein. Sur le canapé.
Tu dormais avec. Nos grosses têtes dès 15h30 dans le grand studio RTL. Vous avez une moumoune, vous, Marie?
Non, j'ai pas de moumoune, pas de voiture.
Alors, on va faire un point sur notre météo. C'était calme, agréable ces derniers jours. Aujourd'hui, ça sera un petit peu moins ensoleillé.
Oui, voilà. Ça restera calme dans le sens où il y a très, très peu d'averses. Il peut y avoir quelques gouttes là au nord de la Sète. C'est assez anecdotique, mais bon, c'est possible. Pour les autres, donc, c'est un temps sec. Donc, calme. Mais c'est vrai qu'on aura moins de soleil que ce que l'on a eu ces derniers jours.
Oui.
Un ciel un petit peu plus laiteux. Alors, ça gâche pas non plus l'impression de beau temps, mais quand même, un ciel un petit peu plus laiteux sur le pays. Ce matin, pour avoir vraiment un ciel dégagé, il faut aller vers les Alpes et la Corse. Cet après-midi, on va garder ce ciel laiteux, notamment vers le sud-est du pays. La Corse va garder du soleil, le centre du pays aussi, ce sera laiteux, ce sera vraiment bien nuageux. En revanche, le voile sera plus épais. De la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est, voire jusqu'à l'Île-de-France et au centre Val-de-Loire. Vers l'Atlantique, vous allez retrouver des éclaircies. Après le ciel laiteux de ce matin, ce sera plutôt clair cet après-midi. Et puis au nord de la Seine, on a une petite perturbation qui essaie de rentrer. C'est pas bien méchant, je vous le disais, les averses sont peu nombreuses. Mais le ciel est beaucoup plus nuageux là en ce moment vers la côte d'Opale. Et ça va concerner tous les Hauts-de-France cet après-midi jusqu'à la Manche. Avec des températures, alors justement sous les nuages, il fait très doux sur la côte d'Opale. Hein, on a les 15 degrés, avec 15 degrés à Dunkerque et à Calais. Alors qu'on a un peu de fraîcheur ailleurs, hein, moins 1 au Puy, 2 degrés seulement à Nancy. Il ne fait que 1 degré à Dijon et à Nevers. Pour cet après-midi, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier. C'est plutôt de saison, hein, entre 14 et 22 degrés avec 15 à Lille, 17 au Havre, à Mulhouse ainsi qu'à Lyon. Vous aurez 18 à Paris cet après-midi. Il fera 20 à Bordeaux, 21 à Marseille et 22 à Toulouse.
Merci beaucoup Marina. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 15 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est l'info de la nuit. Un homme est en garde à vue depuis hier soir après la mort d'une femme de 77 ans retrouvée décapitée chez elle à Agde dans l'Hérault. Un individu qui n'a pas été difficile à identifier, Patrick Tégéraud.
Oui, l'enquête a été très rapide. Dès hier matin, les policiers disposaient des images des caméras de surveillance installées dans et autour de la maison, en particulier celle placée en évidence au-dessus de la porte du garage et qui enregistre toutes les entrées et sorties. D'ailleurs, dans la matinée, discrètement, les policiers présentaient une photo aux voisins les plus proches. Et puis, il y a eu le retrait d'argent dans l'après-midi avec la carte bleue de la victime qui a permis de localiser et surtout d'identifier l'assassin. Assassin car il y a eu préméditation. Des gants en latex et du ruban adhésif couvert de sang ont été trouvés abandonnés dans le jardin. Il s'agit donc d'un homme de 51 ans qui connaissait la victime. Elle lui a ouvert le portail électrique, puis la porte de sa maison sans aucune difficulté. Alors que dans le voisinage, on la décrit comme discrète et méfiante. Le fait que l'agresseur n'ait pas fait attention à la vidéosurveillance et qu'il soit resté à Agde laisse penser à un crime simplement crapuleux, mais extraordinairement barbare.
Patrick Tégéraud dans l'Hérault pour RTL. Emmanuel Macron de retour à Marseille aujourd'hui, un mois et demi après une première visite et l'annonce d'un grand plan pour relancer la ville. Le président vient faire le point sur la lutte contre le trafic de drogue et la rénovation des écoles notamment.
On en vient au héros du jour, un homme qui a sauvé l'un de ses voisins d'un incendie à la seule force de ses bras.
Oui, le feu a pris hier après-midi dans un immeuble lyonnais. Pour échapper aux flammes, un résident s'est accroché à son balcon au 5e étage. Il était suspendu dans le vide. Fethi est monté immédiatement et depuis la fenêtre la plus proche, soutenu par son frère, il a hissé le jeune homme tétanisé.
Je l'ai vu, il a commencé à crier « Aide-moi s'il te plaît, aide-moi, je vais mourir ». Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris tous les risques qu'il fallait. Je me suis penché pour le sauver, j'avais mon corps à l'extérieur, je suis monté sur le bord et je l'ai pris son bras. L'avant-bras, je l'ai bien serré et je l'ai tiré. Et au moment qu'il arrive vers moi, j'ai pris sa taille et je l'ai soulevé. Au 5e étage, bien sûr.
On vous a applaudi.
Hein. Ah oui, oui. Franchement, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais fier de moi, ce qui s'est passé. Je me dis non, c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. Là, je réalise pas, je suis en train de trembler encore. J'ai eu la rage pour le sauver, c'est tout.
Fethi au micro RTL de Frédéric Perruche. Au chapitre politique, sachez qu'Anne Hidalgo est officiellement investie par le PS pour la présidentielle. Il n'y avait pas trop de suspense. Pour l'instant, elle est créditée de 4 à 7% d'intention de vote dans les sondages. Par ailleurs, Valérie Pécresse reprend sa carte chez les Républicains, parti qu'elle a quitté il y a 2 ans. Elle demande à tous les membres de son propre mouvement libre d'adhérer à leur tour. En ligne de mire, bien sûr, le congrès du 4 décembre qui désignera le candidat LR. RTL vous le révélait hier soir, Célio est sauvé. Au bout d'un an et demi, l'enseigne de vêtements masculins sort enfin de la procédure de sauvegarde, mais la potion a été amère. Il a fallu fermer une centaine de magasins et revoir complètement la philosophie de la marque, comme l'explique le président Johannes Soanen.
C'est effectivement une nouvelle stratégie produit. On a des collections plus larges. Nous avons baissé nos prix et on a fait réémerger ces vêtements qui sont plus basiques, qui correspondent à ce que portent les hommes aujourd'hui post-Covid, où les codes du vestiaire masculin sont totalement libérés. On vient travailler en jean, en t-shirt, etc. Et ça, c'est l'ADN de Célio. Ce qui faisait la force de Célio, qu'on a fait réémerger.
Le président de Célio au micro de Nerissa Emani. À l'étranger, le spectre de la guerre civile ressurgit au Liban. Des combats de rue ont fait 6 morts hier à Beyrouth. Les tirs ont éclaté en marge d'une manifestation organisée par les mouvements chiites Hezbollah et Hamal. En toile de fond, l'enquête sur l'explosion qui a dévasté le port à l'été 2020. Le bâtonnier de Beyrouth, Melem Khalaf, est très inquiet.
La violence qui a sévi hier nous rappelle les années noires que nous avons vécues dans notre jeunesse et qu'on doit refuser de tout notre âme. Et nous sommes pris en otage et nos ravisseurs sont cette classe politique qui n'arrive pas à dialoguer, à être à la hauteur d'une responsabilité qui est celle de gérer le quotidien des gens.
Le bâtonnier de Beyrouth avec Alice Moreno. Un nouveau record pour Banksy. Son œuvre, La fille au ballon, s'est envolée hier pour près de 22 millions d'euros lors d'enchères à Londres. Une œuvre qui a pris une valeur folle car l'artiste l'avait en partie détruite lors d'une précédente vente. Et puis ce matin, Yves, certains se font du souci.
Riches amis, l'heure est grave. Des inconnus vont pouvoir gagner des sommes colossales en cochant 5 numéros et 2 étoiles sur une grille Euromillions. Nous ne pouvons laisser quiconque devenir plus riche que nous. Nous sommes tous dans le même yacht. Alors, faisons barrage au jeu.
Vieille publicité pour l'Euromillion. Plus que jamais d'actualité, car ce soir, si vous gagnez, vous serez vraiment plus riche que riche. Ah jackpot oui. Record de 220 millions d'euros. Cela représente, pour vous dire, presque 12 000 ans de SMIC brut. Bon, ok, vous n'avez qu'une chance sur 139 millions, mais comme on dit, 100% des gagnants ont tenté leur chance.
Et à chaque fois qu'on donne ces informations, les gens vont encore plus jouer.
Ils font comme ils veulent.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et nous serons avec les Beatles dans les coulisses de leur dernier concert très improvisé.
Avec grand plaisir. plus. L'économie avec François Langlais dans un instant. François qui va nous expliquer, nous analyser en tout cas, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et ses conséquences inattendues, l'ISF.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Bonjour François, c'est un dossier sensible et une nouvelle évaluation de la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, vient d'être publiée.
Oui, vous vous souvenez de cette réforme, elle était intervenue au début du quinquennat Macron, c'était en 2018. L'impôt de solidarité sur la fortune, qui frappait chaque année les patrimoines supérieurs à 1,3 million, a été supprimé au profit d'un impôt sur la fortune immobilière, qui ne frappe plus que le patrimoine immobilier. Autrement dit, toutes les possessions financières des individus fortunés, les actions, les obligations et autres placements, échappent désormais à la taxation. Et puis parallèlement, les dividendes, c'est-à-dire l'argent produit par les placements en actions et reçu chaque année par l'actionnaire, ont été imposés à taux unique, 30%, alors qu'auparavant, ça pouvait aller jusqu'à 45%.
D'où le surnom attribué à Emmanuel Macron pour l'attaquer de président des riches.
Oui, parce que cette réforme a diminué très très sensiblement l'impôt des gros contribuables. L'objectif, c'était de rendre la France plus attractive pour les investisseurs afin d'augmenter la croissance économique et puis bien sûr l'emploi.
Alors la seule question qui vaille, c'est cet objectif a-t-il été atteint, François ?
Écoutez, 4 ans après la réforme, 3 ans et demi, les bénéfices ne sautent pas au visage. Les experts de France Stratégie qui sont auteurs du rapport n'ont pas constaté d'augmentation significative de l'investissement des entreprises.
Mais ça veut donc dire que la France aurait fait cette baisse d'impôts coûteuse pour notre budget en pure perte ?
Alors, il faut quand même préciser, d'abord, que l'épidémie est intervenue entre-temps. Il est tout à fait possible qu'elle ait brouillé les cartes. Ensuite, la réforme n'a pas été si coûteuse pour le budget, parce que les fameux dividendes pour les actionnaires, sur lesquels on avait abaissé le prélèvement, ils ont fortement augmenté. Comme si les entreprises, en voyant l'impôt diminuer, avaient distribué davantage de dividendes. Du coup, rentrée fiscale en hausse, malgré la baisse de l'impôt, c'est la confirmation sur ce point de la doctrine libérale qui veut que, quand l'impôt baisse, le contribuable cherche moins à l'éviter et que donc l'État y perd moins qu'on ne le redoute. Enfin, dernier point, si cette réforme a réinstallé la France dans la moyenne européenne de l'impôt sur le capital, il faut quand même du temps pour que l'image du pays change. Bercy se prévaut déjà de la forte croissance des financements de start-up en France, spectaculaire cette année. Il est possible que ça soit un effet indirect de la réforme et c'est quand même important.
Alors, dernière question, et puis elle est importante, on reprochait aussi à l'ISF de déclencher l'exil fiscal des contribuables fortunés. Est-ce qu'on a constaté du mieux sur ce thème ?
Oui. En 2019, c'est la dernière année observée, les retours en France de contribuables fortunés étaient plus nombreux que les départs, 340 contre 280. En clair, cette année-là, la France a importé des riches, et il vaut mieux. Alors que c'était le contraire avant la réforme. En 2016, par exemple, il y avait eu 470 retours pour 2 fois plus de départs. En résumé, on voit bien quelques signes de changement de comportement des contribuables, mais ils sont modestes, après une réforme dont le coût budgétaire n'a pas été si élevé. C'est le coût politique qui est lourd pour un exécutif accusé de favoriser les quelques dizaines de milliers de contribuables en haut de l'échelle, dans un pays où on pratique la chasse aux riches avec passion. Et ça nous promet quelques beaux débats dans la campagne présidentielle.
En tout cas, je retiens cette notion, les rentrées fiscales ont été plus fortes que prévues, malgré la baisse de l'impôt. Merci beaucoup François Langlais. On se retrouve lundi avec grand plaisir et d'ici là sur le site RTL.fr. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le député de la France Insoumise, François Ruffin, il a repris son bâton de journaliste réalisateur. Ça donne un magnifique documentaire sur ces femmes, vous savez, qui s'occupent de nos malades, nos enfants, nos personnes âgées. Ça s'appelle « Debout les femmes ».
A tout de suite avec François Ruffin sur RTL.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le député de la France Insoumise, François Ruffin.
Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
Et donc vous avez réalisé ce magnifique documentaire « Debout les femmes » avec Gilles Perret. Il est sorti en salle mercredi. Je vous avais reçu en juin 2020 avec votre collègue le député En Marche, Bruno Bonnel, attelage assez surprenant. Et vous étiez sur le point de démarrer une mission sur les métiers du lien, donc les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, les infirmières. Mais bien sûr, comme vous êtes journaliste de formation, il n'était pas question de partir en mission sans caméra. c'est ça ?
Oui, même quand on était arrivé ici, c'était la fin de la mission. Et là, on était, l'objet était de rendre visibles celles qui sont les plus invisibles. Et bon, on y est parvenu. Je pense qu'on fait un beau film avec Gilles Perret. Et dans ce studio, Bruno Monnel nous disait bah, il faudra qu'elles aient un plan de carrière, il faudra qu'elles soient largement au-dessus du SMIC. Moi, je disais, si vous en souvenez, bah, si déjà, à la fin de tout ça, elles sont au salaire minimum, ça sera déjà très bien sous Macron. Il se trouve qu'un an et demi après, on n'y est pas du tout.
On est très en dessous. On va revenir sur ce que vous avez quand même obtenu, des petites choses. Mais on voit dans ce film, vous allez à Dieppe, vous allez à Amiens, vous êtes aussi à l'Assemblée suivre ces femmes. Des femmes qui ne se plaignent pratiquement pas. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez elles ?
D'abord, c'est un métier que je connaissais moi depuis le milieu des années 2000, mais les deux qui coexistent, c'est-à-dire le sens du travail, la volonté de bien le faire, de s'occuper des personnes âgées, de s'occuper des enfants pour les assistantes maternelles, donc un amour de tout ça, et en même temps, quand même, des moments de révolte en disant mais c'est quand même pas normal qu'on soit avec des petits bouts de contrat du matin, du midi, du soir, avec une énorme amplitude horaire. En moyenne, un auxiliaire de vie fait 53 heures de travail par semaine, si on compte le temps de transport, et elle est payée 682 euros. En moyenne, c'est le ministère du Travail qui vient de sortir cette statistique. Donc là, il y a un énorme décalage entre la mission qu'elles remplissent, dont tout le monde va dire ah, elles sont formidables, elles sont essentielles, elles sont indispensables, et derrière, c'est même pas la reconnaissance, c'est juste simplement la décence de payer correctement leur boulot. Quoi.
Leur salaire moyen, c'est
682 euros. Ça a été sorti par le ministère du Travail il y a 6 mois.
Et il y a 3 millions de personnes dans ces métiers du lien. C'est souvent pas un métier qu'elles ont choisi. Elles disent, ce qui m'a frappé dans votre film, c'est je fais ça pour ma fille, je fais ça pour les enfants.
Oui, alors souvent c'est une deuxième carrière, ça arrive, c'est-à-dire qu'on a été ouvrière à l'usine, et puis parce que c'est des femmes, hein, à 95%, et puis l'usine elle ferme, et à la campagne on se retrouve à faire auxiliaire de vie dans le village, et puis finalement on y prend goût aussi quand même, c'est une fois qu'on est entré dedans, on trouve le sens que ça a, et on aime ça.
Elles les aiment, leurs petits vieux, leurs enfants handicapés dont elles s'occupent, et puis alors dans votre film il y a le premier confinement qui arrive, vous dites elles poursuivent leur travail, donc nous aussi on va continuer de filmer. Et il y a ce discours du président qui dit « Il faudra se rappeler que notre pays tient aujourd'hui tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. »
C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit « Bon bah, il ajoute même les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. » Donc il y a un grand espoir que ces professions qui ont été en première ou en deuxième ligne se voient très nettement revalorisées.
Espoir déçu alors ?
Espoir, bah oui, très largement déçu. C'est pour ça que je pique une crise en commission des affaires sociales quand on vide ma proposition de loi concernant les agents d'entretien en me disant « Bon bah, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. » Et un an et demi plus tard, je crains que ça soit... dans la durée, on va gagner sur ces métiers-là. Moi, ma conviction, c'est là, parce que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui ont une utilité sociale évidente.
On va vivre plus longtemps.
On va vivre plus longtemps. Il y a un besoin de main-d'œuvre là-dedans. Hein. C'est la France 2030 dont nous parle Emmanuel Macron. Et ça, c'est pas que de la technologie, que du petit nucléaire, que de la robotique. Au fond, elles incarnent la France 2030, la France 2040, la France 2050. Donc je suis convaincu que dans la durée, on va gagner sur ces métiers-là, d'autant plus qu'il y a un immense sentiment de sympathie dans la population. Et ça, c'est une force pour elles. Donc, il faut leur rendre leur fierté, parce que vous savez, il y a plein de femmes, c'est comme s'il y avait une double souffrance. D'un côté, il y a la souffrance d'avoir du mal à remplir son frigo, mais il y a une deuxième souffrance qui est le fait d'être invisible et de parfois vivre dans la honte. C'est-à-dire que quand le métier est résumé à torcher le cul des vieux, parce que c'est un peu l'inconscient qu'il peut y avoir dans la société, bah elles se disent voilà, j'ai honte de mon métier. Et donc rendre une fierté. Il me semble que la lutte symbolique, elle est la première des luttes pour parvenir ensuite à avoir une espèce de lutte matérielle. Quoi.
Et le documentaire finit en apothéose avec une reconstitution de l'hémicycle. Toutes les femmes qui ont témoigné sont là en chantant l'hymne du MLF, le mouvement de libération des femmes. François Ruffin, on commémore aujourd'hui dans les collèges et dans les lycées la mémoire de Samuel Paty. Vous pourriez faire un film sur ces profs d'histoire qui expliquent combien il est difficile de faire son boulot parce que la liberté d'expression est discutée, la laïcité est discutée. Certains ont peur de montrer des caricatures.
Vous savez, de toute façon, je pense qu'on peut faire un film sur à peu près tout. Et pour parler du métier d'enseignant, moi, je pense qu'au fond, on a un continent des métiers du lien. C'est-à-dire que sur quoi repose la société ? Et Antoine de Saint-Exupéry disait « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est-à-dire qu'on est dans une société où, politiquement, on va à fond miser sur le visible. Qu'est-ce que fait un maire ? Ce sont les maires bâtisseurs. Ils veulent faire des... On fait un hôpital qui coûte 1 milliard d'euros, mais on se demande pas comment on va mettre des infirmières et des infirmiers à l'intérieur. On va construire, pour les Jeux Olympiques, des tas de bâtiments en France pour préparer les Jeux Olympiques, mais on se demande pas comment on va amener du sport aux gamins des quartiers ou des campagnes. Et je pense que, évidemment, le métier d'enseignant, il appartient à cet immense, pour moi, continent des métiers du lien, dans lequel il y en a qui, des métiers qui sont déjà avec statut, avec revenu, type enseignant, heureusement pour eux, et il y en a, par exemple, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, qui font un travail remarquable pour permettre l'école inclusive, mais qui est aujourd'hui une école inclusive low cost, qui, elles, sont sans statut étant revenus. Mais tout ça appartient à un même continent des métiers du lien, et c'est vraiment ça qui fait la société, qui fait l'entraide.
François Ruffin, la police tue. Ce sont les propos de Philippe Poutou, candidat du NPA. C'est utile dans le débat public, ce genre de phrase qui trimballe la haine anti-flic ?
Alors vous savez, j'ai produit un rapport sur que faire de la police et je disais la même chose à propos de la police. Quelle est la police que nous voulons ? Je pense qu'on doit vouloir une police...
Non mais c'est utile de dire ça comme ça.
Vous savez, j'ai 10 minutes dans, dans cette année, on va avoir 10 minutes pour parler des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Tous ces métiers qui aujourd'hui sont... complètement dévalué.
Il y a des bavures dans la police, mais non, globalement, la police est là pour nous protéger.
Je vous dis juste, j'ai 10 minutes pour porter leur voix. J'ai pas envie de polluer ça avec les polémiques du jour. Alors, si, je vais vous dire ce que je pense qu'il faudrait de la police. La police, je pense qu'elle elle doit être, elle aussi, un métier du lien. C'est-à-dire, comment on rétablit la confiance entre les citoyens et la police, c'est une chose, mais la police, son rôle, c'est d'établir la confiance aussi entre les citoyens. Et voilà, je crois, la mission, parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les policiers, ils savent plus quelle est leur mission. C'est le cœur du problème de la
mais
police.
Mais vous le diriez, vous, ça,
mais
la
non,
police
est-ce que je l'ai dit, d'accord. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire société ensemble. Et je ne crois pas que ça soit en allumant les braises de la discorde sur ce plan-là,
ou
en les remuant ici dans le studio, qu'on va y parvenir. Donc moi, vraiment, je viens pour faire lien dans la société, et faire lien notamment vers les plus invisibles qui font leur boulot tous les jours. Et si on parvient à ce que le corps social ne se délite pas, c'est parce que toutes ces personnes continuent de faire ce travail.
Ce qui ne fait pas lien, ce sont toutes ces candidatures de gauche. Dans notre dernier sondage, 8%, dans notre dernier sondage BVA, 8% pour Jean-Luc Mélenchon, 8% pour Yannick Jadot, 4% pour Anne Hidalgo, 1,5% pour Fabien Roussel du Parti communiste, 1% pour Poutou, 1% pour Artaud. Comment
Mais vous voyez, je viens pour vous parler de Assia, de Hayat. Mardi prochain, vous aurez une grève des accompagnantes d'enfants en situation de handicap dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire une école inclusive qui est low cost. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les moyens de vraiment accompagner les enfants et élèves handicapés dans les écoles. C'est ça que je viens défendre. C'est ça qui me paraît beaucoup plus essentiel. Et si vous voulez, ma bagarre en politique, mais depuis maintenant 4 ans, c'est quoi ? C'est que la vie des gens soit pas éclipsée par la vie des grands. C'est ce qu'on faisait du temps de Louis XIV. Vous savez, quand il y avait les carnets de Saint-Simon, il y avait que les aristocrates à Versailles qui avaient une figure, mais vous m'avez lancé là-dessus. Il y avait que les aristocrates qui avaient voix au chapitre, qui avaient une figure, qui étaient représentés à Versailles, et la vie des paysans était complètement éclipsée. Eh bien, moi, je viens pour aider à introduire sur la scène publique. Et quand bien même vous levez le doigt dans le studio, je viens pour introduire dans la vie publique les paysans d'aujourd'hui qui sont les éternels excipiés. Ce sont ces accompagnants d'enfants en situation de handicap, ce sont des exclusifs de vie sociale, et ce sont des agents de soutien. Et du coup, j'ai pas envie d'en revenir aux petites polémiques du jour.
François Ruffin, le député qui n'est pas encore dans la campagne, on l'a compris, mais il faut aller voir ce documentaire « Debout les femmes ». Ça sort un peu partout en France avec Gilles Perret. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous avez réussi à citer Saint-Ex et Saint-Simon dans cette interview. Restez avec nous parce que maintenant c'est l'œil de Philippe Cavrivière. À tout de suite.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h56, bonjour Philippe.
Bonjour. Bonjour.
Alors François Ruffin est resté avec nous. C'est quelqu'un d'engagé, connu pour ses coups de gueule. Et il vous fait penser à quelqu'un que vous aimez bien.
Oui François, vous me faites penser à mon chanteur décédé préféré, Daniel Balavoine. Il avait une formule qui vous irait très bien. Il disait « Je m'emporte pour ce qui m'importe ». C'est joli. Hein
oui.
Et Balavoine a dit aussi « C'est quoi le petit bouton rouge? C'est pour régler l'altitude ?» Et oui, cette chronique est aussi informative. On apprend des choses. François, vous venez nous parler de « Debout les femmes ». L'idée est super, parler des femmes invisibles, des femmes de l'ombre, que personne n'écoute, dont tout le monde se fiche, qu'elles soient auxiliaires de vie, aide à domicile, femmes de ménage, Anne Hidalgo. Et j'en oublie. C'est une magnifique initiative. Par contre, le titre « Debout les femmes », ça fait un peu « Debout la France » du con gnangnan. Alors, je l'ai eu au téléphone, il porte plainte pour plagiat. Bah, il a une bonne idée tous les 15 ans et vous lui piquez. C'est vrai que c'est pas très sympa non plus.
Philippe, sans vous demander pour qui vous allez voter, est-ce que vous pouvez nous dire ce que votre sensibilité politique ?
Ah, je suis partagé. Bon, c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour Marine Le Pen hier, hein, un crush, comme disent les jeunes. Et en même temps, je sens bien que la France insoumise propose une société plus apaisée, qui défend les femmes, les faibles, les invisibles. J'ai envie d'être de gauche. Et en même temps, j'hésite. Surtout quand je vois ce qui se passe avec le PSG.
Comment ça? Qu'est-ce qui se passe avec le PSG?
Depuis les Qataris, c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec l'argent, tout devient possible. Même faire venir Messi, le meilleur joueur du monde. C'est ce que notre spécialiste François Langlais, éco, ici absent, me résumait avec cette formule lapidaire mais pleine de bon sens. Tu vois, Philippe, les sous, c'est bien. Et c'est peut-être la quintessence de l'économie. Oui. Si Mélenchon est élu, les Qataris vont se barrer avec leur thune et le PSG va se retrouver avec l'effectif de Sochaux. Faut quand même y penser avant de voter Mélenchon.
Bon, quel enchaînement magnifique. Hier, vrai, Emmanuel Macron, aussi. Oui, jouait avec le Variété Club de France contre une équipe de soignants pour l'opération Pièce Jaune.
Vous avez vu? Vous avez regardé BFM?
Oui, j'ai regardé, oui.
Ouais, c'était Téléfoot, Big oui, Sport. On voyait tout le match avec Macron. Oh, il y avait une ambiance!
Oui, bienvenue ici au stade de Poissy, alors que Emmanuel Macron et son équipe rentrent sur le terrain. Macron qui porte le numéro 3, sûrement en référence au sondage d'Anne Hidalgo. Signalons que ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est dans l'équipe opposée aux soignants. Vu, il n'y a qu'à voir l'état des hôpitaux.
Vous avez vu ce coquin d'Emmanuel Macron, ce qu'il a fait? Il est entouré d'anciens footballeurs pro. Oui. Pour battre une équipe d'ambulanciers épuisés, les pauvres. Ah, ben c'est notre Manu, hein, c'est la gagne à tout prix. Il est polyvalent, notre président. Il sait tout faire. Il a fait un match de foot. Peut-être la semaine prochaine, il va faire Fort Boyard.
Emmanuel, oui. Je suis le père Foura.
Toujours dire la voix qu'on imite, qu'on
oui,
imite
bien
mal.
Bien sûr, on ne sait jamais.
Je suis le père Foura. Auras-tu la réponse à cette énigme? Les Français souffrent des inégalités. Que doit-on faire?
Ben, durcir les règles de l'assurance chômage.
Bon, les énigmes, c'est pas ton truc. On va te faire crapahiter au milieu des migales.
Bon alors, Emmanuel Macron a aussi dit que la France était un des pays où on travaille moins que les autres.
Dis donc, l'an dernier, alors, on restait sur notre canapé, on n'allait pas au bureau, on nous donnait du pognon et on nous disait qu'on était des héros. Cette année, on a repris le boulot, on se fait traiter de feignasse. Faudrait savoir, à un moment donné. Alors la gauche, elle est pour la réduction du temps de travail. Bon, moi, je travaille 3 minutes 30. donc physiquement, je peux tenir.
Oui, c'est voilà. Tenable.
Alors, je ferais bien des heures sup. Mais si je fais 8h01, 8h02, 8h03, le patronat et Dominique Tenza du journal, ils vont encore gueuler. Donc bah, je ne peux pas, je suis coincé.
On termine avec cette journée d'hommage pour Samuel Paty.
Impossible de ne pas en parler de ce professeur, ce simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor, comme disait quelqu'un dont c'était l'anniversaire cette semaine.
Il y mettait du temps.
Avec Jean-Jacques Goldman. Merci Philippe Cadrivière. On vous retrouve chaque matin à 7h55 en direct et puis bien entendu sur le site rtl.fr. Bonne journée à vous. Merci d'être resté avec nous François Ruffin. Dans un instant, notre journal de 8h. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la livraison de drogue à domicile.
Ou quand les dealers s'organisent pour maintenir coûte que coûte les trafics. Reportage stupéfiant à Marseille dès le début de ce journal. Cédric Jubilard convoqué ce matin par les juges dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine. Malgré les nombreux soupçons, une personne croit encore en son innocence, sa nouvelle compagne. Vous l'entendrez dans un instant. À suivre également dans ce journal, visite exceptionnelle au cœur du chantier de Notre-Dame. Il reste 2 ans et demi pour tout reconstruire. C'était les chances fixées et il y a encore du boulot. Une matinée très musicale avec les retours de Stromae et de la chanteuse Adèle. Vous découvrirez ce qui devrait rapidement devenir des tubes. Et puis, nous irons en Savoie où le record de la plus grande raclette a été battu hier soir.
Votre surf de l'info, Cyprien Sini.
Avec le Mbappé de l'Elysée, rien que ça.
RTL Matin.
Se faire livrer sa drogue aussi facilement qu'un plateau de sushi. C'est un reportage RTL édifiant que nous vous proposons ce matin, tourné à Marseille, où les opérations de lutte contre la drogue obligent les trafiquants à faire preuve d'inventivité. Les clients ne peuvent plus se rendre auprès de leurs dealers, trop dangereux, trop surveillés. Eh bien, ce sont les dealers qui viennent directement livrer les clients chez eux. Vous en avez été témoin, Hugo Hamelin.
Absolument, le dealer prend la commande de résine ou d'herbe de cannabis de 5 à 100 grammes uniquement via un message WhatsApp ou Snapchat. Et une fois qu'il en a assez, eh bien, il l'envoie à un livreur ponctuel faire sa petite tournée dans le centre-ville.
Dans 5 minutes, même pas 5 minutes, je peux être à Londres. Allez, ça va, super, vas-y, ok, on fait comme ça.
Surprise, notre livreur n'est pas en scooter, il n'a pas 20 ans, mais plutôt 50, au volant d'une camionnette d'artisan tout à fait insoupçonnable, un ouvrier de la start-up du deal.
Là, en ce moment, on prend voilà les risques. Ils ont arrêté des collègues à nous il y a quelques semaines. Et à la fin du mois, j'ai ma paye. Et ma paye, elle me pousse à faire ça, t'as vu. C'est dommage, mais bon.
Tu travailles à côté?
Je suis intérimaire, ouais. Ça fait 14 ans, je suis intérimaire. J'ai jamais mis 100 euros de côté. Demain, je meurs, mes deux filles n'auront même pas un euro. Le côté.
Phénomène accentué par les confinements et les opérations de police qui perturbent les points de vente traditionnels, la livraison de stupéfiants à domicile pourrait doubler, voire tripler dans les années à venir, selon un officier de la brigade des stupéfiants.
Enquête RTL signée Hugo Hamelin. Marseille, où Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui pour faire un premier point d'étape, un mois et demi après avoir dévoilé son plan pour rénover entièrement la ville et notamment les écoles.
8h03, un témoignage RTL à présent, celui de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard.
Elle est sans doute l'une des rares à croire en son innocence. Même sa mère à lui avait émis il y a quelques semaines des doutes sur son fils, Cédric Jubilard, qui reste le suspect numéro un dans la disparition de sa femme Delphine. Incarcéré depuis le mois de juin, il sera convoqué tout à l'heure par les juges pour une première audience sur le fond de l'affaire. Séverine, c'est le nom de sa nouvelle compagne, espère qu'il aura enfin l'occasion de convaincre les magistrats.
Cédric sera entendu aujourd'hui. J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Cédric, pour moi, il est innocent. Il est temps maintenant de les laisser sortir. Mais bien sûr, ils ont décidé de faire cette audition apparemment deux fois. La première aujourd'hui et la deuxième en décembre. Donc tout pour le faire craquer, l'épuiser, quoi, c'est bien dommage.
Vous, personnellement, comment vous vous sentez ?
Aujourd'hui, je me sens fatigué, mais je me dois de tenir le coup pour Cédric, je ne le lâcherai pas. Bien sûr que la médiatisation a eu un impact sur ma vie, mais j'ai un caractère assez fort pour gérer ça. Et ce que les gens pensent ou disent de moi sur Cédric ne m'importe peu. J'ai confiance en Cédric, je m'accroche à ça.
Témoignage RTL de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, recueilli par Guillaume Chiez. Un homme de 51 ans interpellé, placé en garde à vue hier soir à Agde, dans l'Hérault, il est soupçonné d'avoir tué dans des conditions particulièrement barbares une femme de 77 ans qu'il a décapitée. Selon les premiers éléments, le suspect et la victime se connaissaient. C'est même elle qui lui a ouvert le portail de sa maison pour qu'il entre. Les enquêteurs s'orientent vers un crime crapuleux. Cela fera un an demain que Samuel Paty a été assassiné et ce vendredi tous les établissements scolaires vont rendre hommage au prof d'histoire géo, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Minute de silence, projection de documentaire, débat sur la laïcité ou sur le rôle des professeurs. Chaque école aura la liberté de s'organiser comme elle l'entend.
RTL, il est 8h04, 2 ans et demi pile après l'incendie qui a vu toute une partie de Notre-Dame ravagée par les flammes et notamment la flèche s'effondrer. RTL a choisi ce matin de faire le bilan.
Une brigade spéciale en immersion au cœur de ce chantier titanesque. Emmanuel Macron avait fixé à l'époque une échéance 5 ans pour tout reconstruire. Nous sommes donc à mi-chemin et il reste 2 ans et demi d'ici 2024. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Vous vous êtes donc rendu au cœur de ce chantier pour RTL, un gigantesque échafaudage qui occupe désormais l'intérieur de la cathédrale.
L'ascenseur nous attend pour monter le plus haut possible. On va au sommet, donc à 33 mètres de hauteur. Donc on arrive au niveau 11 et il y a deux niveaux encore qu'on va atteindre à pied. Et on aperçoit le ciel bleu avec les cintres qui ont été posés ces derniers mois, millimètres près, pour soutenir les voûtes qui ont été affaiblies par l'incendie. Et on est complètement dans le chantier, au cœur du chantier. C'est une forêt métallique. C'est un peu un labyrinthe. On va aller à droite, au cœur même de l'incendie, puisque ici, c'est donc le trou béant laissé par la flèche lorsqu'elle est tombée lors de l'incendie. Et donc là, à 30 mètres de haut, on peut même toucher la pierre de Notre-Dame qui a été nettoyée, mise à nu pour que la cathédrale soit ensuite reconstruite, la charpente sur de bases saines. Voilà, un petit raccourci pour éviter de faire un grand tour. Voilà, on y est arrivé.
Vous voilà donc redescendu au sol, Sophie. Comment se présente la reconstruction de Notre-Dame ?
Déjà, elle a commencé loin de Paris, hein, dans des scieries où les chaînes de la charpente sont en train d'être séchées, d'être préparées, dans les ateliers des facteurs d'orgue au sud de la France. Ils vont nettoyer les 8000 tuyaux. Et ce n'est que le début pour tenir la promesse d'Emmanuel Macron, explique Jérémy Patrier, le porte-parole de l'établissement public qui gère le chantier.
Il y a plus de 135 marchés qui vont être lancés. Il y a des lots très précis, très spécifiques, hein, afin de permettre à des petites entreprises, des TPE, des PME, détentrices de savoir-faire très minutieux, très rares, de participer à ce chantier de restauration.
Chaque centimètre carré de la cathédrale va être nettoyé, réparé, renforcé, y compris les zones qui n'ont pas été touchées par l'incendie et la chute de la flèche. Notre-Dame va retrouver une splendeur, une couleur, des lumières qu'elle n'a jamais connues.
Ce sera donc dans 2 ans et demi, la brigade RTL ce matin avec Sophie Orange. Merci beaucoup Sophie.
Passionnant et émouvant. Dans un instant, les wagons-bars de la SNCF qui font leur révolution. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Du nouveau dans nos trains à partir d'aujourd'hui. La SNCF a décidé de rendre ses voitures-bars plus responsables, entre guillemets, explique la compagnie.
Oui, le développement durable au cœur de son offre de restauration, c'est l'objectif, avec davantage de produits locaux et moins d'emballages plastiques. Ce sera le cas notamment pour les bouteilles d'eau désormais vendues dans des emballages en carton, Arnaud Touche.
Absolument, et la bouteille d'eau est le deuxième produit le plus vendu après le café à bord des TGV. Voilà pourquoi il était indispensable d'agir au plus vite, comme le détaille Alain Krakowicz, le PDG de SNCF Voyage.
2 millions de bouteilles d'eau vendues tous les ans, c'est considérable. C'était donc un enjeu pour nous majeur. Et donc on aura, à partir d'aujourd'hui, de l'eau qui sera dans des contenants totalement recyclables et recyclés.
Elle ressemble à des petites briques de lait, et ces nouvelles bouteilles seront d'ailleurs plus chères, explique Franck Benoît, qui s'occupe des services dans les TGV.
L'eau sera vendue entre 20 et 30 centimes de plus que ce qu'on avait.
Comptez désormais 2,70 euros pour 33 centilitres. Par ailleurs, la SNCF va également installer des distributeurs automatiques de café en plus de la voiture bar. La carte a également été remaniée avec des desserts signés Nina Métayer.
Je suis très fière et je suis ravie de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. C'est un peu comme si je partageais un moment avec chaque personne, donc je suis très émue et très fière.
Le tri sélectif sera désormais la norme à bord des rames TGV et des bornes tactiles pour commander au bar seront installées d'ici 2 ans.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ah, c'était un reportage signé Arnaud Touche.
2,70 euros la bouteille d'eau.
Ouais, voilà. Y a des choses qui ne changent pas.
Rappelons-le.
Les prix de la voiture bar. En Norvège, c'est bien la piste islamiste qui est désormais privilégiée par les enquêteurs. L'homme qui a tué 5 personnes à l'aide d'un arc et de flèches mercredi soir s'était converti à l'islam. Il était suivi pour radicalisation. Et puis au Liban, au moins 6 personnes abattues hier au cours d'un rassemblement à Beyrouth lors d'une manifestation organisée entre autres par le mouvement chiite Hezbollah contre le juge en charge de l'enquête sur l'explosion dans le port de Beyrouth en août 2020. Un épisode meurtrier qui ravive le spectre des violences et celui de la guerre civile.
La musique maintenant avec le retour ce matin de 2 artistes extrêmement populaires.
Oui, il y a des matinées comme ça où nous sommes gâtés avec d'abord la chanteuse Adèle qui à 33 ans nous revient avec un nouvel album qui sortira le mois prochain et dont le premier extrait a été mis en ligne cette nuit. Ça s'appelle Easy on Me. La voix est intacte et comme d'habitude, c'est redoutablement efficace. Adèle, Easy on Me, nouveau titre accompagné d'un clip mis en ligne à 1h du matin et déjà visionné plus de 12 millions de fois. Et puis autre retour, on avait fini par désespérer 8 ans après la sortie de Racine Carrée, l'album de tous ses tubes. Stromae a dévoilé il y a 2 heures à peine sa dernière création, le titre Santé. Et là encore, ceux qui aiment ne seront pas déçus.
Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière.
Stromae, le chanteur belge qui a déjà annoncé qu'il remonterait sur scène l'été prochain, notamment au festival Rock en Seine.
On va terminer avec un record comme on les aime. Moi, je ris bêtement, mais.
Ah ben oui, après le plus long sandwich aux rillettes du monde.
Oui.
Ça, c'était, vous vous souvenez, cet été en Mayenne. La plus longue galette saucisse, là, c'était au mois de juin. Eh bien, le record de la plus grosse raclette jamais organisée a été battu hier soir. Ça se passe évidemment en Savoie. Et l'initiative, on la doit à l'INSEEC, l'école de commerce de Chambéry. Les étudiants que vous avez rencontrés, Serge Puyot, en sont particulièrement fiers.
Bah oui. La Savoie, c'est la raclette, et la raclette, c'est la Savoie.
On a 9000 tranches de charcuterie, 410 kilos de fromage, 400 kilos de pommes de terre, 110 appareils à raclette. C'est des chiffres énormes. C'est la plus grande raclette du monde.
C'est une religion ici, la raclette. On a ça dans les veines, hein, ça coule dès notre naissance.
Ah, c'est un concept d'orgasme culinaire, hein, on va pas se le cacher non plus. Hein.
Le goût du fromage, la charcute, la bonne ambiance qu'il y a autour d'une raclette. C'est vraiment sacré la raclette, oui.
Ce soir, c'est raclette party. Ramène le jambon pays. Ce soir, c'est raclette party. Ouais, c'est raclette party.
On et ça, c'est DJ Matafan qui a animé la soirée. Voilà, c'est Serge Payeux qui nous a fait découvrir ce son venu de Savoie.
DJ Matafan,
il voilà, y a la raclette party, puis il y a Adèle. Et vous ferez votre choix entre les deux.
Mais écoutez, oserais-je vous dire que c'était le journal. C'était le journal de Dominique Tenza. Vous revenez à 9h, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr.
Pour le point de l'actualité, mais oui, ça nous fera pas de mal. Dans un instant, nous allons retrouver le surf de l'info et Cyprien Sini. Nous serons avec Maître Leroy ensuite, l'avocate de la famille de Samuel Paty.
RTL Matin.
matin.
Il est 8h16, avant de retrouver Cyprien pour son surf de l'info, on va faire un point météo avec vous, Marina, je vous écoute.
Alors, il y a un petit peu de fraîcheur ce matin, moins de gelée quand même que les jours précédents, et cet après-midi, bon, on sera à peu près dans des moyennes de saison, entre 14 à Langres et 22 à Toulouse, vous aurez 15 à Lille cet après-midi, il fera 16 à Strasbourg, 18 à Paris, 20 degrés à Bordeaux et 21 à Marseille. Du côté du ciel, alors on garde des conditions anticycloniques, donc très peu d'averses, mais le ciel sera un petit peu plus voilé que les jours précédents. Un voile qui va traverser quasiment tout le pays d'ouest en est. Il y a encore de belles éclaircies ce matin des Alpes à la Corse. Et puis cet après-midi, une fois que ce voile aura traversé le pays, retour du soleil de la Bretagne en allant vers les Pyrénées. Là où le voile va s'intensifier quand même, c'est sur la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, voire l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire. Ce sera un petit peu plus gris quand même. Et puis on a une petite perturbation, pas très active, qui arrive par le Nord-Pas-de-Calais. Là, c'est assez couvert. Bon, il y a quelques gouttes, mais c'est vraiment très anecdotique. Mais il y a quelques gouttes et ça pourrait toucher le nord de la Seine d'ici à cet après-midi.
On vous retrouve après 8h30 pour notre météo à 7 jours.
J'ai de bonnes nouvelles.
Ah.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Cini.
Ce soupir d'aise que vous avez entendu, c'était Cyprien Cini, absolument, qui surfe lui ce matin avec le match de foot du président Macron.
Mais oui, car je ne sais pas ce que vous faisiez hier après-midi, mais à 17h, eh ben, le monde s'est arrêté de tourner.
Priorité au direct. L'image du jour vient des Yvelines aujourd'hui, du côté de Poissy. Le président de la République, vous voyez, en tenue de football aujourd'hui.
Eh oui, Emmanuel Macron, footballeur, prise d'antenne de BFM pour ce match au sommet entre le Variété Club de France et le CHU de Poissy au profit de la Fondation des Hôpitaux de France. Et donc...
Bah, le match qu'on va suivre en direct.
Non, bah, carrément. Hein. Mais bon, avant le match, il y a l'avant-match avec analyse du physique présidentiel en short.
Il est revenu très fit, vous savez comme on dit, bien affûté, qu'il a même perdu pas mal de poids parce qu'il faisait tous les jours du jogging, du vélo, de la boxe, du tennis.
Oui, un grand timonier, pardon, un président ultra fit, surentraîné, et au stade Léo Lagrange de Poissy, annonce des joueurs.
Numéro 3, Emmanuel Macron.
J'ai un peu boosté le bruit du public, hein, j'ai pas envie de prendre un contrôle fiscal. Et donc, vers 17h10...
Voilà, c'est le début donc de ce match. Dans
début du match, c'est parti, et dès les premiers instants dans ce maillot bleu ciel.
Premier ballon, Emmanuel Macron.
Dribble, deux d'ailleurs, réussi.
D'entrée de jeu, deux dribbles réussis, c'est le Brésil, c'est Macronino. Bon, on va pas se le cacher, comme l'a expliqué Arsène Wenger après le match.
La protection du président était instinctive chez l'équipe adverse. On l'a vu dans certaines situations quand même qu'il se jetait pas comme des morts la faim sur le ballon.
Oui, alors ils y sont allés mollo avec le président quand même. Puis au bout de 10 minutes...
Oh, pénalty ! Pénalty, je pense, oui, pénalty.
Pénalty pour l'équipe présidentielle. Et comme par hasard, qui c'est qui va tirer le péno? Eh ben, c'est Macronino avec analyse BFM Politique.
Oula, grosse pression.
Prend pas beaucoup d'élan.
Pas beaucoup d'élan. Le président pose le ballon.
Il va y aller. Il va peut-être marquer. Il marque, il égalise.
Mais oui, mais c'est dedans. Mais quel but, quel talent, quel homme. Bon, après, avec la complicité de William Galibert qui a baladé le micro RTL en tribune, c'était pas Zizou non plus. Hein.
Vous savez, on le voit pas beaucoup. On l'a repéré parce qu'il était plus petit que les autres.
Ah ben, bravo. J'en connais une qui va avoir des problèmes, moi.
Oh non, celui qui est le mieux, c'était Carl Olive.
Alors, on met une couche en plus. Carl Olive, c'est le maire de Poissy. Bref, score final 6-1 pour l'équipe du président. Et attention, instant de lucidité sur BFM.
On est dans une grande démonstration de politique spectacle.
Non. Bon, en tout cas, Poutine, avec ses 5 buts lors d'un match de hockey, a encore un peu d'avance sur notre Macronino à nous.
Merci Cyprien Cini. Bon week-end et on se retrouve lundi.
À lundi.
Pour écouter RTL sur votre enceinte connectée, dites
« Ok Google, lance le live RTL »
ou
« Alexa, lance RTL ».
RTL, partout, tout le temps.
RTL Matin, Yves Calvi.
RTL, il est 8h20, il y a un an, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était décapité après avoir montré les caricatures du prophète Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours au sein de son collège dans les Yvelines. Bonjour Maître Virginie Leroy.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate de la famille Samuel Paty. Toute première question, Maître, un an après cet assassinat, comment vont les proches de Samuel Paty?
Ils vont bien, autant que ce soit possible d'aller bien. C'est encore l'heure du deuil, beaucoup de douleur encore. Hein. Tout ça est très frais, les plaies sont encore béantes. Mais ils envisagent ces hommages avec beaucoup de sérénité.
Comment vivent-ils justement la médiatisation et parfois la récupération ou l'instrumentalisation qui peut être faite de cette affaire?
Alors, la médiatisation, elle est normale. Tout le pays a été saisi, horrifié par ce qui est arrivé à Samuel, donc elle est normale. La récupération, elle est douloureuse. Quand il y en a, elle est douloureuse. À titre d'exemple, ils ont très très mal vécu le fait que Éric Zemmour s'octroie l'image de Samuel Paty et de plein d'autres victimes, hein, beaucoup de victimes du Bataclan également, des victimes de terrorisme à des fins suffragistes. Ça, cette campagne hein, qui a eu lieu via Génération Z hein, en juillet a été très très mal vécue.
L'exploitation politique de la mort de Samuel Paty utilisée.
L'exploitation politique de victimes, c'est évidemment d'une indécence folle et c'est un manque de respect pour les familles qui n'ont évidemment ni été appelées. L'autorisation, alors là, c'est même pas la peine d'en parler. C'est un manque de respect et de dignité vis-à-vis de ces familles, et particulièrement de la famille de Samuel, qui est ignoble.
Aujourd'hui, l'école républicaine va rendre hommage à Samuel Paty, et vu les débats houleux de ces derniers jours, on imagine qu'il ne va pas être simple de rendre cet hommage à la fois nécessaire à l'enseignant. Là aussi, comment abordez-vous cette journée bien particulière ?
Bah, vous l'avez dit, cet hommage, il est nécessaire. Rendre hommage à Samuel, c'est réaffirmer haut et fort la liberté d'expression. C'est une chose de se dire choqué, outré, blessé par ce qui est arrivé. Oui, c'est horrible. C'est le terrorisme. C'est horrible. Voilà, c'est la définition du terrorisme. Mmh. En revanche, il faut quand même pas perdre de vue que Samuel Paty est mort pour avoir montré des dessins. Il est mort, l'homme est mort pour avoir montré des dessins. L'enseignant est mort pour avoir appliqué, enseigné le programme de l'éducation nationale. Je rappelle quand même que les caricatures figurent au programme, c'est au journal officiel de l'éducation nationale. Donc, Samuel Paty est décédé pour avoir exercé son métier et avoir appliqué l'enseignement républicain. Donc oui, l'hommage, il est nécessaire, il est indispensable. Et chaque hommage, c'est réaffirmer cette liberté.
Et pourtant, au sein même de sa maison, c'est-à-dire l'éducation nationale, le rapport qui a été publié à l'époque met en cause une partie de son travail.
Ouais.
Comment vivit, alors la même chose, comment, enfin, et de son engagement, dont vous venez de nous rappeler qu'il était un principe républicain et d'éducation absolue. Là aussi, quelle est votre réaction ?
Bah, c'est évidemment très mal vécu. On ne peut pas le vivre bien. Moi j'ai tout de suite réagi hein, quand ce rapport est sorti. Je ne le cautionne pas. Je le trouve indigne et puis je le trouve faux. Quand on ose dire que Samuel Paty n'a pas maîtrisé les principes de laïcité, je trouve que c'est un contresens et puis c'est mensonger.
Mais qu'est-ce que ça nous dit de la Maison Éducation Nationale surtout ?
Ben, elle est en souffrance, évidemment.
À qui il a donné sa vie ?
À qui il a donné sa vie, dans tous les sens du terme.
Oui.
Et dans le plus grave de tous ces termes, oui. Oui, moi je reçois énormément de messages de professeurs et d'enseignants qui sont en souffrance, qui ne se sentent pas écoutés. Alors on la comprend la peur, hein. Moi je ne juge pas, je ne suis absolument pas dans le jugement. Je dis juste que ce type de sujet, ce type de principe, si on veut les porter haut et fort, le 8 mai n'est pas admissible. Le 8 mai, il a montré les caricatures, c'est absolument indigne. Devant un acte aussi grave, on devrait avoir un bloc, faire bloc, de manière absolument unanime.
Ce bloc n'existe pas, vous le savez. Même à Conflans-Sainte-Honorine, où il y a beaucoup d'émotions en ce moment, pour certains, on aimerait bien oublier cette affaire, plutôt que de la revendiquer et de la porter à bout de bras.
Oui. Encore une fois, moi, je comprends les peurs. Tout ça est très frais. Hein. C'est très, très frais. Il faut du recul. Je comprends les peurs, les appréhensions, que ce soit des élèves, des parents, des professeurs. Tout ça, évidemment, on le comprend. Mais à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. À un moment, il faut aussi mettre ces principes qu'on fait tant de morts déjà en France, tant de morts et des morts horribles, au-dessus du reste. En tout cas, c'est ma conviction.
Vous arrive-t-il de vous dire les barbares ont gagné la partie ?
Non, jamais. Les barbares n'ont pas gagné la partie. Le combat est encore en route. Évidemment, ce n'est pas achevé. Mais encore une fois, chaque chose que l'on fait... Vous savez, je vais revenir sur les hommages.
Oui.
Le plus petit hommage, et d'ailleurs j'en profite parce que quelque chose qui tient vraiment à cœur de la famille de Samuel, c'est de remercier chacune des personnes qui ont adressé un hommage. On parle beaucoup aujourd'hui de l'hommage des institutions de l'État, c'est très bien. Et heureusement qu'elles ont lieu. Heureusement, c'est très symbolique. Mais chaque petit hommage, chaque petite lettre, dessin, poème de collégien, de n'importe qui d'ailleurs, qui a été reçu cette année... Eh bien, la famille tient à manifester un énorme merci pour ses soutiens. Ça les a aidés à tenir et à chaque fois, ils y sont très sensibles.
Une toute dernière question. Y a-t-il des zones d'ombre aujourd'hui dans l'enquête ? On évoquait des complicités. Est-ce que vous trouvez qu'elle est menée normalement et à son juste tempo.
Oui, oui, oui. Moi, je trouve que l'enquête, elle est dense, elle est complexe. Les faits sont complexes. Il y a un enchevêtrement, un engrenage qu'il nous faut analyser, qu'il nous faut décrypter. Beaucoup de mises en examen, beaucoup de mineurs. Donc, ça rend les choses très lourdes. Mais l'enquête est menée de manière très précise. Elle va encore durer parce que beaucoup de choses restent encore à élucider et à trouver et à expliquer. Mais c'est une enquête, oui, qui est très, très bien menée.
Merci beaucoup, Merci. Maître Virginie Leroy. Je rappelle que vous êtes l'avocate de la famille de Samuel Paty. Merci d'avoir fait entendre la voix de cette famille ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Marina Giraudeau.
RTL Matin.
Voilà, il est 8h30, on arrive à notre météo à 7 jours, Marina Giraudeau. On commence d'abord par une journée plutôt calme.
Oui, oui, ouais. Il y a très peu d'averses, il y a une petite perturbation qui essaie de rentrer là sur le Nord-Pas-de-Calais qui donne un ciel nuageux avec 2-3 gouttes. Mais voilà, ça touchera peut-être localement le nord de la Seine, mais c'est tout côté précipitation. Donc c'est vrai que c'est calme. Plus nuageux en revanche que les jours précédents. Alors donc très nuageux au nord de la Seine d'ici à cet après-midi jusqu'à la Manche en raison de cette petite perturbation. Pour les autres, on a un ciel un peu plus voilé. Alors il y a un voile dense qui va s'installer sur le quart nord-est. Mais ailleurs, et surtout en allant vers l'Atlantique et le sud, le voile sera vraiment pas très épais. Il y aura même du bleu en allant vers l'Atlantique, donc c'est pas une mauvaise impression non plus. À signaler qu'on a des entrées maritimes là sur le Languedoc, mais ça va se désagréger en cours d'après-midi. Pour les températures, peu de changements, entre 14 et 22 degrés. On reste dans des moyennes de saison avec 15 à Lille cet après-midi, 17 au Havre, vous aurez 18 à Paris et à Clermont-Ferrand, 20 à Nice et 22 à Toulouse. Pour le week-end,
oui.
On va plutôt avoir un week-end sec, agréable, donc plutôt un beau week-end. Évidemment, il y a quelques exceptions. Pour samedi, là où on aura des nuages, c'est vraiment de la Bretagne-Cotentin à l'Orléanais en allant vers la Lorraine et l'Alsace. Cette petite zone nord là sera sous les nuages, mais sans pluie. Au nord de cette zone, donc en allant vers les Hauts-de-France, et puis au sud, donc vraiment les deux tiers sud du pays, ce sera du beau temps, à part la Corse, qui aura quelques passages nuageux. Dimanche, soleil et temps sec. Un voile pour la Manche et l'Atlantique dimanche. Mmh. Et puis les températures, bon, qui n'ont pas beaucoup bougé, une moyenne de 17-18 au nord, 20-21 pour la moitié sud. Et pour la semaine prochaine, alors, on passe en flux de sud. Et Yves, un flux de sud, ça va nous donner des températures en hausse. Et mardi sera la journée la plus douce, puisqu'il fera entre 20 et 26 degrés. 26 degrés mardi après-midi pour le sud-ouest du pays. Tout ça va se passer avec un ciel généralement ensoleillé. Un petit peu plus quand même de nuages vers la Manche, surtout lundi. Mais mardi devrait être une belle journée. On garde ce temps assez ensoleillé et assez doux mercredi, mais déjà par la Manche va arriver une nouvelle perturbation pluvieuse et ça devrait annoncer un nouveau changement de temps avec le retour de la pluie et de températures en baisse en milieu de semaine prochaine, mais on attend d'en reparler.
Marina Giraudeau nous annonce un week-end agréable et de la douceur à venir. Merci beaucoup Marina.
RTL autour du monde.
Et ce matin, nous partons en Espagne où dès l'an prochain, le gouvernement veut tester pendant 3 ans la semaine de 4 jours dans 200 entreprises volontaires. L'Espagne va ainsi consacrer 50 millions d'euros pour expérimenter ce projet pilote. L'objectif étant de comparer les entreprises qui auront mis en place la mesure et les autres afin d'évaluer les effets. Certaines n'ont pas attendu cette expérience et ont déjà mis en place ces horaires de travail à la suite de la pandémie. En Espagne, le reportage de notre correspondante Diane Cambon.
Disposer de 3 jours de repos chaque semaine, un rêve bientôt possible en Espagne. Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez s'est inspiré d'un projet pilote instauré par la région de Valence et veut le tester dans toute la péninsule. Mais certaines entreprises n'ont pas attendu la nouvelle loi et ont déjà adopté la semaine de 4 jours. C'est le cas de cette entreprise de design industriel à Madrid. On écoute Maria qui travaille aux ressources humaines et qui constate une baisse du taux d'absentéisme depuis cette réforme.
On est devenu une entreprise beaucoup plus efficace car il a fallu repenser les heures de travail et bien définir nos objectifs. Et en plus, on est convaincu ici que la vie privée ou familiale est aussi très importante car elle fait partie de l'économie et doit figurer au premier plan.
La conciliation travail-famille est évidemment au centre du débat. Les horaires espagnols avec un déjeuner à 15h et un dîner à 21h ne favorisent pas la vie de famille et sont très critiqués par les économistes car ce sont des horaires qui nuisent à la productivité.
Alors justement, ce projet de semaine de 4 jours a comme objectif non seulement d'avoir du temps mais aussi de rendre les salariés plus productifs.
Oui, en effet, le gouvernement espagnol rêve d'une productivité à l'allemande. Ici en Espagne, on travaille en moyenne 40 heures par semaine et selon les calculs des économistes, les Espagnols produisent 32 euros à l'heure. C'est 11 euros de moins que les Allemands qui sont le peuple qui travaille le moins d'Europe, en moyenne 28 heures par semaine. Mais n'oublions pas qu'il existe une grande différence entre l'Allemagne et l'Espagne. Ici, le moteur économique, ce n'est pas l'industrie, mais le secteur de la restauration ou de l'hôtellerie. Et par exemple, comme l'explique très bien Sylvia, une madrilène spécialisée dans les nouvelles technologies, c'est le modèle de production qu'il faut changer pour se permettre une semaine de 4 jours.
Il faut vraiment tout parier sur la recherche et le développement et privilégier les secteurs de pointe et les technologies qui vont être le moteur de l'économie. Sinon, le projet ne tient pas.
On voit bien que cette initiative sème des doutes et elle est même considérée comme une belle utopie par certains économistes.
Les principaux réfractaires à la semaine de 4 jours sont les dirigeants du patronat espagnol. Il rappelle que l'Espagne est constituée de PME de petite taille qui pourraient avoir plus de difficultés à mettre en place ces horaires réduits. Les 200 entreprises volontaires pour tester ce projet pilote vont ainsi permettre de prouver si réellement, en travaillant moins, on est plus heureux et plus efficace en termes de productivité.
RTL autour du monde, merci beaucoup Diane Cambon, correspondante d'RTL en Espagne. Il est 8h35, Isabelle Choquet. De quoi allez-vous nous parler dans la face cachée de la Une dans un instant ?
Ce matin, je vous invite au dernier concert des Beatles, backstage en plus.
Ah ben moi, j'ai été élevé aux Beatles, alors je peux vous dire que ça m'intéresse. À tout de suite.
À tout de suite.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
8h37, on vous retrouve Isabelle Choquet pour une plongée inédite dans les derniers mois des Beatles.
Cela fait plus de 50 ans que les Fab Four se sont séparés hein, et un livre revient aujourd'hui sur la genèse de leur dernier album, le mythique Let It Be. On en parle cette semaine dans Paris Match.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Nous sommes en janvier 69. Les quatre garçons dans le vent se sont lancés dans une drôle d'aventure, un grand show télévisé en public. Depuis leur début en 1960, ils ont donné plus de 1400 concerts et puis la flamme s'est éteinte. Ils passent moins de temps ensemble. John a rencontré Yoko. C'est McCartney qui a pris le destin du groupe en main et c'est lui qui comprend l'enjeu du show télé en live. Ce sera forcément plus fort que le Rock'n'Roll Circus des Rolling Stones. Le 2 janvier, donc, les Beatles se retrouvent dans un immense studio de Twickenham. Ils ont accepté de se laisser filmer en permanence par deux caméras, c'est un peu le loft avant l'heure. Ils prennent leurs instruments, ils discutent. Très vite, ils tombent d'accord. Pour ce concert, autant proposer de nouvelles chansons. Sauf qu'ils sont arrivés les mains dans les poches, ils partent de rien. Sous l'œil des caméras, ils vont créer de nouveaux morceaux et c'est du lourd. Get Back, mais aussi The Long and Winding Road, Across the Universe, un chef-d'œuvre par jour ou presque. Pour le fameux concert, rien n'est vraiment décidé. Le réalisateur imagine un trip en Libye, mais Ringo s'y oppose. Alors, je veux pas voyager, la nourriture étrangère, c'est dégueulasse. Paul et John suggèrent de demander un ferry à la P&O. On aurait des passagers à bord pour assister au spectacle, ce serait un show total. Harrison casse l'ambiance. On est incapable de se faire prêter un ampli. Comment voulez-vous qu'on demande un bateau ? Personne ne tranche, aucune idée n'émerge. Résultat, tout reste en plan. Et au bout d'une semaine, Harrison craque. Il pose sa guitare et il quitte le groupe. Malin, Lennon propose à Eric Clapton de les rejoindre. George remonte à bord. Mais cette fois, le projet de concert pour la télé est enterré. Un studio est aménagé dans le sous-sol d'Apple, la maison de disques qu'ils ont créée. La magie opère à nouveau. Sauf quand Paul laisse entendre que la présence de Yoko est peut-être un peu envahissante. Réponse de John, je n'hésiterai pas à tous vous sacrifier pour elle. Bon gré mal gré, 15 chansons sont composées et Paul relance l'idée d'un concert, histoire quand même de clôturer cette drôle de séquence. Ainsi naît l'idée du concert sur le toit le 30 janvier. Le grand retour devant le public, enfin le public, c'est un bien grand mot, hein. Sur le toit d'Apple, il y a 20 plaies et un tondu, les copains quoi. Les médias n'ont pas été prévenus. Depuis le trottoir, 4 étages plus bas, on ne voit rien. On ne voit rien, mais on entend. Voisinage sort, étonné par le bruit, certains décrochent leur téléphone pour prévenir la police. 3 jeunes flics débarquent, pas assez pour empêcher les 4 fantastiques de terminer leur happening. 1 heure plus tard, c'est fini. Les Beatles viennent de donner leur dernier concert, mais ça conclut match. Personne ne le sait encore.
Un film formidable, un film documentaire, mais qui n'est plus exploité. Je crois qu'il y a une histoire de droit absolument incroyable, mais ça mérite d'être vu avec ce fameux concert. Merci Isabelle, on se retrouve lundi.
Avec plaisir, à lundi.
À lundi.
RTL.
vous êtes comme ça.
Et vous êtes comme ça, et ce matin dans le Jura suisse, où l'on est aussi au chevet de Notre-Dame de Paris. Samuel Goldschmidt, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et tous.
Vous vous êtes rendu dans la seule scierie hors de France qui participe à la fabrication de la nouvelle charpente de la cathédrale restaurée.
Oui, depuis 100 ans, la famille Corba à Vandelincourt est spécialiste du sillage, notamment des feuillus. Quand il a su que la France choisissait de reconstruire à l'identique la charpente de Notre-Dame, Gauthier Corba, le directeur adjoint, a tout fait pour candidater à ce projet.
Ça se présente une seule fois. Et pour nous, c'était vraiment important d'être partenaire en Suisse aussi de ce projet. Il faut savoir qu'en Suisse, l'émotion a été très très grande. Je trouve que c'est quelque chose qui a eu une résonance extrêmement importante, je crois, dans le cœur des gens. Et être scieur, pour nous comme pour notre personnel, c'est une fierté aujourd'hui en tant que tel.
Les chaînes transportées d'Alsace sont passées sur la scie à ruban à commande numérique qui a eu fort à faire.
Voilà, vous avez sous les yeux une traverse de chemin de fer. Donc on est sur une pièce qui fait 2,50 m. Les pièces pour Notre-Dame, on a vraiment monté des grumes d'environ 7 mètres. C'était vraiment monumental par rapport au chariot. Donc on a testé les limites de nos installations.
La machine a fonctionné.
La machine a fonctionné sans mal. On a un petit peu transpiré.
Car des poutres de chêne aussi grandes, c'est simple, ça ne se voit plus du tout.
Là, vous êtes face aux pièces qu'on a réalisées pour la cathédrale, donc qui font plus de 6,50 m de long. C'est difficile, c'est des pièces qui pèsent environ 350 kg.
Ça, on ne fait plus.
Ça, on ne fait plus. Réaliser des pièces en chêne massif dans des boîtes de cette qualité, c'est unique.
D'ailleurs, Gauthier Corba aime comparer cette aventure au mystère de la construction des pyramides ou des statues de l'île de Pâques.
Quand on est face à ces pièces, on se rend compte que c'est quand même inouï de se dire que des gens au XIIIe siècle ont réussi à tailler, à travailler, à acheminer, à monter des milliers de pièces dans une charpente de la taille de celle de Notre-Dame. Comment est-ce possible que cette charpente n'ait pas été mieux protégée? Alors c'est surtout pas l'idée de refaire le débat, mais c'est surtout pour pointer l'incroyable patrimoine que représentait cette charpente.
Corba est l'une des 40 scieries qui préparent les pièces de ce puzzle gigantesque. Le lot va rester encore ici pour le séchage.
Donc nous, on a scié un peu plus de 20 pièces. Je sais qu'elles sont consacrées à la flèche. Quand elles sont sciées, elles ont 50% d'humidité. Et elles doivent essuyer minimum une année, c'est vraiment le minimum. Et puis après, il faut les mettre à couvert et il y a quand même une préservation à faire particulière. Plus vous avez une pièce de bois comme ici massif, plus ça prend du temps à sécher.
C'est pour cela d'ailleurs que les commandes ont été passées le plus tôt possible.
Bah justement Samuel, refaire une charpente aussi gigantesque avant 2024, tout cela est-il bien raisonnable?
Alors pour les scieurs, c'est faisable, mais très ambitieux avec une dose de risque. Il faudra monter une bonne partie du bois en verre, comme on dit ici, c'est-à-dire non séché. Cela se faisait d'ailleurs au Moyen-Âge, mais attention, ensuite le bois va bouger. Forcément, le chêne perd 7% de son poids en séchant. Donc la question sera de savoir si cette charpente, construite dans ces délais, tiendra encore 600 ans.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt pour cette visite dans la scierie qui va fournir une partie du bois pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Dans un instant, Laurent Gérard.
RTL Matin.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi. Le festival Lumière a lieu à Lyon et c'est Lambert Wilson qui a failli être nommé maître de cérémonie. Revivons les essais de Lambert Wilson à la Halle Tony Garnier.
Lion, c'est une femme. Lion is a woman. Leonard Hasselbacher. Leonard Denbeck. Mais Lion, c'est aussi un saucisson chaud. Lion is a hot dog. Lion, un gros saucisse. Leonard Den Couscous Merguez.
Quelle belle soirée.
Ah, bonjour Patrick Bruel.
Putain, ça va pas, non? Ils sont devenus fous à Lyon, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état, Patrick?
Mais enfin, t'es aveugle, sourde, muette ou quoi? T'as pas vu la liste des invités au Festival Lumière à Lyon?
Ah, je commence à comprendre. Il y a plein d'invités prestigieux et vous n'y êtes pas.
À force de bouffer du saucisson d'oreille de porc et des couilles de dindon en quenelle, ils sont devenus complètement dingues. Les gones, ils font un festival de cinoche et ils ont oublié de m'inviter.
C'est vrai qu'il y a du beau monde, ça c'est vrai.
C'est vraiment dégueulasse de m'avoir oublié. Et puis, en plus, ce festival s'appelle le Festival Lumière.
Oui, et alors?
Putain, ça me donne envie de pousser un cri.
Oui. Voilà, ça y est, c'est fait.
J'en suis une de lumière, moi. Je brille dans la nuit, je suis un phare, je m'en fous, puisque c'est comme ça, j'irai au Festival Noroto de Goussainville.
Google vient de publier la liste des 10 questions les plus posées sur Internet. Et surprise, la question la plus posée est « Comment faire un nœud de cravate ?»
Je crois que c'est de ma faute.
Tiens, bonjour François Hollande. Comment ça, c'est de votre faute?
Pendant 5 ans, j'ai essayer d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers.
C'est pas faux. C'est vous tout seul qui avez placé cette question en tête des questions les plus posées sur Internet ?
Ben non, j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Mmh. Et résultat ?
Résultat, tout est allé de travers, même le nœud.
Parmi les questions les plus posées sur Internet également, comment tomber enceinte ?
Tomber enceinte, comment ça marche ?
Ah, bonjour Michel Chevalet.
Pour répondre à cette question, je vais vous amener une maquette.
Excusez-moi Michel, mais je ne vois pas une maquette, je vois de la nourriture.
C'est pareil, prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule.
Oui, bon, bah, je crois qu'on a compris.
La procréation, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de mayonnaise.
Non, c'est bon. Merci Michel, ça suffit. La septième question la plus posée sur Internet est « Comment faire les pancakes ?»
Je suis tellement content.
Céline Dion, cette question vous concerne.
Comme tu le sais, dans ma belle province, on adore les pancakes. Là.
Oui.
Et depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir. C'est affreux.
Mais pour qui préparez-vous tous ces pancakes ?
C'est pour mon pépé.
Ah.
C'est bon. Mon jeune danseur vigoureux, mon pépé mignose.
Et pépé est friand de pancakes.
Ah, c'est que ça mange un grand guerrier comme ça. T'as donc pas vu la bête. Taillé
ah, si,
comme
vu.
Un bûcheron.
Ah, oui,
et il se dépense avec ça à faire ses cabrioles sur scène.
Ça le met en appétit, forcément.
Ah, il n'y a pas que ça qui met en appétit, ma pauvre jeune, j'en peux plus. Bon matin aussitôt qu'il me voit au fourneau en robe de chambrée à cuitocher le pancake, là. Ça lui fait monter à sève au pépé. Il devient collant comme du sirop d'érable.
Oui.
Ah, on peut plus, là, ça continue. C'est pour la recette du pancake que je vais demander à Google. C'est la recette du bromure.
Enfin, dixième question la plus posée sur Internet. Comment perdre du ventre ?
Je crois que c'est encore de ma faute.
Ah ben c'est encore vous, François Hollande ?
C'est pas tout à fait moi, c'est ma Juju. Elle n'aime pas trop mon petit bidon. Ils vont en mignon, mon bidon.
Les propos sur les chômeurs qui profiteraient des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances font encore polémique. Voyons ce qu'en pensent nos amis, les déchiens.
Ah 36-15, qui n'en veut des allocations, hein, oui. Pour les gars qui n'en veulent des allocations. Voilà. Ce matin, je reçois Bruno Lochet. Comment t'appelles-tu, mon Bruno, et raconte-nous ton histoire.
Je m'appelle Bruno Lochet, avec un L, hein, comme Lochet. Et j'ai été licencié par mon usine. Du coup, bah, ma femme est partie avec les gosses et le chien aussi.
Ma femme, Bruno Lochet, a emmené donc elle a emmené le chien.
Ah ben non, le chien il est parti lui aussi, mais tout seul, parce que j'avais plus de quoi acheter des croquettes, vu que j'avais plus de travail.
Ah, et puis donc, on peut le dire, hein, tu picolais un peu, hein, mon Bruno, c'est normal, pour oublier, tu picolais.
Ben non, pas trop, l'huissier il a pris la maison, du coup, depuis à la rue.
Voilà, et comment mon Bruno Lochet s'est retrouvé en vacances à se prélasser, hein, sur une plage des Bahamas, grâce à ses allocations au chômage, hein.
Ah ben non, là, je suis plutôt sur un carton.
Dis donc, tu es un fainéant, mon Bruno, tu es un fainéant. Même si le président Emmanuel Macron, il le dit, tu es un gars qui naît fainéant.
Ben non, moi j'aimerais bien retrouver un travail.
Voilà, ben c'est bien ça mon Bruno, tu veux retrouver un travail pour produire, hein, comme il dit le président de la République.
Bah, surtout pour que ma femme et mes gosses y reviennent, et Kiki, mon chien aussi.
Je lance donc un appel, 3615, un travail et Kiki pour le fainéant Bruno Lochet. Et on chante tous ensemble, qu'as-tu mis dans ton panier, un travail, qu'as-tu mis dans ton panier, un travail pour Bruno Lochet, ce fainéant.
Wow! Ben alors.
Ah, deux chercheurs du CNRS de Montpellier viennent de démontrer que la Covid-19 se déplace différemment dans l'air en fonction des mots que l'on prononce. Vous le saviez, monsieur
Kéline ? Non, non.
Par exemple, les mots qui contiennent les sons F, P, K ou T envoient beaucoup plus de gouttelettes dans l'air. Nous recevons un grand ami des acteurs. Bonjour, Dominique Besnéard.
Bonjour à tous. On l'a échappé belle avec l'étude des chercheurs du CNRS. C'est pas facile à dire. Oui. Imaginez que ce soit les qui soit dangereux pour la transmission des saloperies. Oui. On n'aurait pas pu s'exprimer sur scène ou au cinéma. Hein. Ça ne m'arrangeait pas, moi, en tant que coach qui prend 10%.
Bah oui, vous allez revoir certains dialogues de films pour tenir compte de ces consonnes à éviter.
Nous, en France, on s'en fout des consonnes dangereuses. Les acteurs se contentent de dire merde et les actrices font la moue. Mais c'est pour les films américains que ça ne va pas être facile.
Ah,
hein.
Oui.
S'ils interdisent les sons feu et que...
Les acteurs vont plus pouvoir dire fuck et ça va enlever la moitié des dialogues. Enfin, je dis ça, je dis rien.
Bonjour Fanny Ardant, oh là là, ça fait longtemps.
Ah mais oui, bonjour à toi Jade, et aussi à toi Yves, bah, Yves Robert, Yves Boisset, non. Yves Calvi forcément.
Forcément. Revenons à nos syllabes dangereuses à prononcer en ces temps de contagion. Vous prenez des précautions particulières avec les queues, les teux, les peu, Fanny Ardant?
Mais non, parce que tu sais, dans mon métier, il faut savoir se mettre en danger. Par exemple, s'il le faut, je peux dire une phrase, que avec des paix.
Que des paix?
Oui.
Oui.
Mais oui, écoute. Oui. Patrick Patrac pose une pêche. Mmh. C'est du Marguerite Duras, forcément.
Oui, c'est impressionnant, en fait.
Oui. Mais oui, il faut tout oser, tu sais. Tu devrais essayer de te mettre en danger avec des syllabes contagieuses. Tiens, oui. Essaye de dire Toto, Titi, il est tétant d'une petite totonne têtue.
Écoutez, une autre fois. Oui. Merci, Fanny Ardant.
Et c'est tout. C'est et surtout, travaille ton alphabet. A, B, C, D, ouais. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Le secret, c'est d'ouvrir la bouche en grand pour bien prononcer.
Tout cela a été parfaitement...
Ce sera fait.
Oui, ce sera fait avec grand plaisir. Et en plus, on peut vous retrouver sur le site rtl.fr.
Bon, bonne matinée.
Merci. Bonne matinée à tous.
On est heureux, on est bien.
On est bien.
Bon, eh ben, on a rendez-vous avec Cyril Lignac dans un petit moment. Voilà. Et notre Cyril va nous proposer dans un instant un merveilleux poulet rôti avec des pommes de terre.
Ah, je vois que vous aimez ça.
Oui. Oh bah écoutez, oui, si. Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas ça, vous?
Voilà. Non, hein, non. Alors, je crois pas.
Voilà. Même Isabelle est d'accord avec nous, pourtant
croupion.
On peut pas en dire.
On lui laissera le croupion.
Ah oui, bien sûr, un petit croupion pour Isabelle. Allez, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
À nous, me disiez-vous à l'instant, cher Cyril Lignac. Isabelle vient en Berrieux, dans le Rhône, et elle vous demande de l'aide pour concocter un délicieux repas dominical, car elle a invité ses parents. Alors dimanche, eh ben, elle va faire un poulet rôti avec des pommes de terre sautées ou des pommes boulangères. Je vous laisse mener cette chose magnifique, alors, cette fête familiale.
Déjà, c'est un beau choix de faire un poulet rôti, parce que oui. Finalement, ça fait plaisir aux petits et aux grands. Absolument. Tout le monde aime. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs morceaux. On laissera le croupion pour Isabelle Moinimos.
Bien sûr. Ouais.
Moi, je prendrai le haut de cuisse, et vous?
Ah ben, moi, j'aime l'aile.
Non, ah, l'aile.
Enfin, le blanc.
Ah ben, c'est
le
bien.
Blanc. J'aime le blanc. Oui,
ah,
oui,
le blanc
parfait.
Et l'aile.
On peut se retrouver tous les trois, c'est très bien.
Ah ben, génial. Comme ça, on ne se disputera pas le poulet.
Voilà.
Alors ensuite, ce que je fais toujours, c'est que je prépare un beurre. Oui. Donc, un beurre aux herbes, un beurre avec un petit peu de chapelure ou un beurre avec un petit peu de parmesan, on fait comme on veut. Ce beurre que l'on va parfumer avec des olives ou avec du romarin ou du thym, on va le glisser sous la peau du poulet. Je prends mon beurre doux, je passe ma main entre la peau et la viande et je tapisse bien le poulet. Comme ça, quand il va cuire, le beurre va fondre sur la viande et va irriguer finalement cette petite chair tendre et soyeuse.
Je vois très bien.
Le jus va couler à l'intérieur du poulet. Donc à l'intérieur du poulet, je prends des petits morceaux de pain, s'il me reste du pain de la veille ou un petit peu de pain de campagne, et je mets du pain à l'intérieur du poulet.
Avec quelques herbes,
des olives, en fait ce qu'on veut. Là, c'est la saison des châtaignes, on peut mettre des châtaignes cuites. Et ensuite, quand ça va cuire, le jus tombe sur le pain. Et quand on va le découper, ben on a le pain, la viande, les petites olives, et à côté on fait des pommes de terre, parce que le poulet c'est les patates. Hein.
Vous me redites le pain?
Le pain.
Voilà.
Mais
cuisson, durée de cuisson.
Durée de cuisson 1h45,
voilà.
Pour à peu près 1,2 kg, on prend un beau poulet fermier.
Voilà.
C'est pas la peine de prendre des trop gros poulets. Moi je préfère des poulets de taille moyenne, comme ça, la chair est tendre, et on le cuit à 190 degrés, 1h45, on l'arrose, et surtout, petit papier aluminium dessus et on le laisse reposer comme toutes les viandes. Ce qui est important dans la cuisson de la viande, c'est le repos. Elle est fatiguée, cette viande.
Bien sûr.
Il faut la reposer.
Mais c'est quoi, 5 minutes de repos?
Un petit quart d'heure.
Ah, un petit quart d'heure,
comme
carrément.
C'est pour ça qu'on l'enrobe.
Sous le papier aluminium.
Voilà. Après, on le découpe, on arrose bien tous les morceaux et puis... Et on a qu'à se régaler.
Bon, allez.
J'ai envie de faire un poulet, maintenant.
Bah, ouais, évidemment, le dimanche. Le dimanche nous attire. Merci infiniment, Cyril Lignac. Il est
9h. RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
Et d'abord cet hommage dans toutes les écoles du pays. Ce vendredi, hommage à Samuel Paty. Cela fera un an demain que le prof d'histoire géo a été assassiné par un jeune djihadiste d'origine tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Minute de silence, débat entre élèves et professeurs. Chaque établissement organisera ce temps de recueillement comme il l'entend. L'avocate de la famille de Samuel Paty était par ailleurs ce matin l'invitée d'RTL. Elle a notamment vivement taclé Éric Zemmour, qui s'est octroyé, a estimé maître Virginie Leroy, la figure de l'enseignant à des fins électorales. Une indécence ignoble, selon l'avocate, et que la famille a très mal vécu. Cédric Jubilard, convoqué ce matin par les juges à Toulouse, le principal suspect dans la disparition de sa femme, Delphine, va pouvoir s'expliquer face aux magistrats. C'est la première audience sur le fond dans cette affaire, incarcéré depuis le mois de juin, mis en examen pour meurtre. Il continue de clamer son innocence. Emmanuel Macron de retour à Marseille ce vendredi, un mois et demi après une première visite très médiatisée au cours de laquelle il avait notamment promis plus d'un milliard d'euros d'investissement et une rénovation de la moitié des écoles de la ville. Anne Hidalgo, désormais officiellement investie candidate du Parti Socialiste, les militants ont voté hier. La maire de Paris a obtenu 72% des voix face à son seul challenger, le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Pour l'instant, à la peine dans les sondages, Anne Hidalgo n'est créditée que de 4 à 7% des intentions de vote. Et puis les chiffres de l'inflation au mois de septembre qui viennent de tomber, une hausse des prix à la consommation en progression de 2,2% sur un an, c'est plus que l'estimation de l'INSEE. Une hausse qui s'explique notamment par des tarifs toujours très élevés de l'énergie.
Merci Dominique, merci.